dans tout ce que je fais d'intense ou de plus gros, ou qui demande une réflexion ou qui demande à pop toujours. C'est comme si ma voix intérieure avait une face maintenant. Avait un visage.
Ta petite voix, c'est ta mère.
Ma petite voix, elle a la face de ma mère.
Ah, ouais. Fait qu'elle est en toi. Tu l'as transformée.
J'espère.
Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois un homme avec beaucoup de charisme. Je l'aimais déjà quand je le voyais l'autre côté de mon écran de télé. Et quand je l'ai rencontré en personne, c'est encore plus fort. J'ai eu un gros, gros coup de cœur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui dit ce qu'il pense, qui démontre ses émotions. Et ça, je trouve que ça fait du bien de sentir les émotions de chaque personne que je reçois. Alors, je vous présente cet homme de cœur, Félix-Antoine Tremblay.
T'es bien fine. Je te renvoie tout ça. Toi-même.
Non, mais c'est vrai, Félix-Antoine, la première fois que je t'ai rencontré, j'avais le même feeling que je ressentais quand je te voyais l'autre côté de mon écran, mais c'est encore plus puissant. T'as une grande qualité de présence. Je sais pas si on te le dit souvent, mais t'as ça.
C'est gentil.
Quand t'es là, on le sait que t'es là. C'est sans que tu dises un mot, il se passe quelque chose.
Ben, je me souviens aussi de notre première rencontre, puis je me souviens que j'avais eu un coup de cœur. On dirait que je sais pas si j'ai cette grande qualité de présence-là, mais je pense que je ressens quand quelqu'un est heureux de me rencontrer ou quand je sens la sincérité de quelqu'un. Fait que automatiquement, ça me donne envie d'être moi-même puis de baisser ma garde. Fait que c'est une super belle qualité. Je te remercie.
Est-ce que tu la mets souvent, ta garde?
Oui, je la mets quand même de plus en plus, je dirais. Je pense que c'est un défi pour moi de mettre mes limites rapidement, tu sais, parce que je pense que dans ce désir-là d'être aimé, de plaire, d'être reconnu, d'être entendu, d'être validé, ça peut venir avec être utilisé, être manipulé, être perçu pour quelqu'un qui n'est pas capable de mettre son pied à terre. Fait que je pense que la trentaine... depuis 35, là, j'essaie vraiment de mettre plus mes limites.
Là, t'as quel âge?
Là, j'ai 37.
OK, donc tu as été échaudé.
Oui, j'ai été échaudé. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. C'est pas quelque chose que tu peux te faire dire « Ah oui, quand tu arrives à mettre tes limites, quand tu arrives à te faire utiliser, quand tu arrives à... » Puis sans que les gens nécessairement t'utilisent pour les mauvaises raisons volontairement, juste des fois, toi-même, tu permets aux gens d'aller trop loin dans une certaine situation qui n'est pas confortable. À un moment donné, tu dis « Ah oui, OK, je pense que là, il faudrait que je commence à dire plus tôt ce que moi, j'aime pas ou ce dans quoi je suis inconfortable parce que à quelque part, j'en suis responsable. C'est moi qui le tolère, c'est moi qui l'accepte, tu sais. »
Mais en même temps, c'est avec des fois l'expérience qu'on comprend c'est quoi nos limites aussi.
Exactement.
C'est quand on les dépasse qu'on dit « OK, il faut le vivre en même temps. » C'est ça que ça prend pas.
Vraiment.
On peut pas dire à un enfant « Voici, tu sais, quand il est petit, on comprend, mais quand il vieillit, on peut pas y dire, c'est nous qui
l'apprenons. » Non, faut tomber, faut se faire mal pour faire « Ah oui, OK, quand je cours vite, puis je m'enfarge dans le tapis, puis je me râpe le genou, c'est ça qui fait mal. Parfait, ben je vais pas courir quand je suis sur le tapis pour pas m'enfarger dedans. »
Est-ce que c'est difficile, ça, d'avoir comme une forme de méfiance qui s'installe?
Oui, c'est difficile dans le sens où tu veux pas que ça devienne de la méfiance. C'est ça le défi, je pense.
La ligne est mince entre les deux.
Parce que moi, j'ai pas envie de me méfier, j'ai pas envie d'être suspicieux des gens que je rencontre, d'être suspicieux des affaires qui m'arrivent. J'ai juste envie de me présenter de façon honnête, sincère, authentique, puis que ce soit en cohérence avec ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, puis ce que j'ai envie d'avoir, puis ce que j'ai surtout pas envie d'avoir dans ma vie. Fait que, tu sais, je pense que je donne une confiance aveugle, mais consciente. Aux gens que je rencontre, aux amis que je me fais, dans mes amours, dans mes relations de travail. Fait que j'aime faire confiance d'entrée de jeu facilement, mais je suis quand même conscient, pas méfiant, conscient.
Ça change quoi dans ta vie?
j'ai l'impression d'être beaucoup plus connecté avec ce que je suis, avec comment je veux que ma vie soit. J'ai l'impression que si je suis pas bien dans une situation, j'ai beaucoup plus de contrôle. Je suis beaucoup plus en phase avec mon instinct puis mes intuitions profondes, parce que je pense que... Et je veux pas être ésotérique, mais quand je fais un peu une relecture de ce qui se passe dans ma vie, de ce qui s'est passé, de comment j'ai été blessé, de comment j'ai été déçu, de comment j'aurais voulu des fois que les choses se passent autrement, puis qu'est-ce que j'apprends de ça, mais au terme de ces réflexions-là, règle générale, quand je fais une rétrospective, j'avais raison la première fois que j'ai fait « Ah! On dirait que je suis pas bien. Ah! On dirait qu'il y a un red flag. Ah! On dirait que... je file pas quelque chose, ben je pense qu'il faut que j'apprenne aussi à plus m'écouter. Fait que tu sais, dans l'idée d'être méfiant, pas d'être plus méfiant, mais d'être plus connecté encore avec ce que je ressens à l'intérieur, la petite voix, des fois, elle est fun à écouter.
C'est bien dit, ça. Parce que c'est vrai que la méfiance, c'est lourd à porter.
Ouais.
Ça prend de l'énergie. Mais la petite voix, c'est de la confiance en soi aussi.
Ben c'est étonnant. C'est étonnant parce que, tu sais, il y a une grosse différence entre confiance en soi puis estime de soi. Confiance en soi, je pense que j'en ai. Estime de soi, c'est à travailler tout le temps.
Fait que tu penses que c'est ça ton lien avec l'espèce de... tu dis, je veux pas être méfiant, mais ta petite voix, pour toi, vient de ta confiance ou de ton estime?
Les deux.
Ça vient des deux. Donc, la c'était l'estime, voix... ta faiblesse dans le
fond. La petite voix vient de ma confiance en moi, mais la méfiance vient de l'estime de moi, parce que j'ai extrêmement peur de me faire jouer. J'ai extrêmement peur d'être le dindon de la farce, t'sais, de me ramasser dans une situation où j'ai pas vu les affaires, j'ai pas compris les affaires, je me suis laissé marcher dessus, j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Fait que ça, je pense que c'est vraiment relié à l'estime de soi, la peur d'avoir l'air de quelque chose, la peur d'être
perçu. De l'ego.
Oui, exactement. Fait que ça aussi, c'est un défi à travailler, puis... ultimement, moi, j'adore ça. J'aime l'humain, j'aime me poser des questions, j'aime jaser. Tu sais, des fois, je parle avec mon chum, puis il est comme, on parle encore de ça? Je suis comme, ouais, oui, on en parle encore, parce que moi, j'ai besoin de le comprendre encore plus, puis oui, ça fait peut-être 5 fois qu'on en parle.
Mais c'est pas clair encore pour
toi. Mais c'est pas clair, ça a pas fait exactement le chemin que je voulais, puis je veux juste être sûr qu'on est 100% au même diapason. Fait que, ouais.
Est-ce que tu consultes, toi?
Ah ben oui. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde de consulter. C'est la meilleure affaire qui soit arrivée dans ma vie. Je conçois pas qu'on fasse des inspections sur nos chars avant de les acheter. Je conçois pas qu'on fasse des changements d'huile, qu'on fasse rééquilibrer nos chars, puis qu'on fasse pas rééquilibrer notre cerveau puis notre cœur. Je trouve que c'est l'affaire la plus utile, sincère, honnête à se faire comme cadeau. Je pense que je vais le faire toute ma vie, puis je réalise aussi que consulter, voir ma psy, qui est extraordinaire, c'est encore plus bénéfique puis payant quand j'arrive là, puis que je dis « Hey, on dirait que je sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. » Tu sais, dans mon char, quand je m'en vais vers ma psy, je suis tout le temps un peu dans « Bon, ouais, ça a été rough ce mois-ci, il est arrivé ça, je vais parler de ça, comment j'ai réagi là-dedans, blabla. » Puis il y a des fois où ça va super bien, puis j'ai rien à dire.
Tu te demandes pourquoi je vais là.
Pourquoi je vais là, pourquoi je m'en vais payer. Puis c'est là qu'il y a les plus belles affaires qui sortent. Puis souvent, je réalise que les chemins, je les fais moi-même, tu sais. Je m'en vais juste chercher une validation dans une certaine réflexion que j'ai moi déjà à la base. Mais j'adore consulter. Je trouve que tout le monde devrait faire ça.
Mais c'est tellement extraordinaire maintenant, parce que tu sais, il y a 30 ans... on ne parlait pas de consulter aussi ouais. facilement. Il y avait quand même un tabou où ceux qui consultaient n'osaient pas le dire, puis c'était comme si tu étais dérangé. Tu ouais. avais un autre problème, alors que, comme tu le dis, c'est une mise au point.
Exactement. Puis c'est un cadeau à se faire. Tu sais, c'est vraiment... c'est drôle parce que je parlais de ça avec ma psy qui disait... je disais tout le temps, « Ah, c'est le fun de venir ici parce que je trouve que c'est comme un safe space. » Tu sais, c'est une place où je peux tout dire en sécurité. Puis elle m'a repris, elle me dit... c'est pas un safe space, c'est un brave space. Parce que le safe space sous-entend que tu vas à quelque part, puis qu'à l'extérieur de là, t'es en danger, t'es pas ouais. en sécurité. Alors que le brave space, ben c'est brave, c'est courageux. Tu prends l'initiative de venir ici pour régler des affaires.
Mais c'est
pour
pas si sécurisant d'autres...
c'est pas, d'aller... ben, pas en tout. c'est Mon ça. Dieu, des fois, tu tombes dans des zones super tough, puis super bizarres, puis tu sais, aussi, tu sais, admettons que tu fais un rendez-vous chez un psy, chez un intervenant, peu importe, travailleur social, tu sais, moi, je pars avec ça après mon rendez-vous, là, puis ça travaille, là, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, tu sais, c'est un travail actif, fait que je trouve que c'est beau, cette réflexion-là, de dire que c'est un brave space, que c'est courageux, que c'est se faire honneur, se rendre vulnérable, c'est se faire honneur, puis d'aller trouver les bons chemins, ben c'est le meilleur chemin qui soit.
Ouais, parce que la bravoure vient de là, d'accepter de montrer sa vulnérabilité.
Ouais.
C'est ça qui est brave
ouais.
chez l'humain.
Pis c'est ça que je trouve beau, moi. C'est ça que je trouve beau chez mes amis. C'est ça que je trouve sexy chez mon chum. C'est ça que j'aime voir des gens qui baissent leur garde, justement. Puis je pense que ça s'apprend, tu sais. Parce que la garde, elle se baisse difficilement, puis elle remonte facilement avec des blessures, avec... Fait que je pense que, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, tu sais.
Est-ce que tu es prêt à baisser ta garde en jouant à Ouvre ton jeu?
Mon Dieu, ben je pense que je suis jamais petit.
On a commencé.
Ma garde n'est pas dure à baisser avec toi, je suis comme ça.
Alors, tu connais le jeu,
oui.
Hein? Alors, c'est les questions vertes qui sont des questions plus générales, mais ça ne veut pas dire moins profondes.
Okay.
Les questions jaunes qui commencent à vraiment être plus personnelles envers toi. Les questions rouges, c'est des questions pour toi. Les questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Si tu acceptes de répondre à une question mauve, tu peux me poser la question de ton choix.
Ah.
Tout le temps. Et tu as ton joker. Le joker, ça me permet, moi, d'aller là où je veux et toi, tu peux m'arrêter.
Okay.
Si jamais il y a une... Ben, c'est souvent dans les sous-questions où tu as une question que tu n'es pas à l'aise. De toute façon, tu choisis pas mal les questions, là. Mais s'il y a une question, parce que comme j'aime creuser, puis tu dis « OK, là, on est rendu assez
oui,
profond. »
Oui, là, on est rendu, il y a du pétrole dans le fond.
Oui, là, c'est assez. Là, tu me mets la carte et moi, j'arrête et je passe automatiquement à une autre question.
Okay.
Donc, c'est ta protection et moi, c'est ma liberté. Fait qu'on est d'accord avec les règles.
Ouais.
Donc, on commence avec les cartes vertes. Tu peux les brasser sur la table. Tu vas m'en donner quatre.
Okay.
De ces quatre-là, je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une aussi.
OK.
Donc, ça commence maintenant.
Alors... Une, elle, je la veux pas. Deux, elle, je la veux pas. Trois, elle, je la veux pas. Quatre.
Est-ce que toi, tu te fais tirer aux cartes, aux tarots?
Je me suis fait tirer. J'ai fait une série qui s'appelle Ésotérique où j'allais visiter un peu tous les arts divinatoires qui se font. Fait que oui, je me suis fait tirer aux tarots. J'adore ça. Je peux pas te dire que j'y crois à 100%. Tu sais, dans le sens, je pense pas qu'il y ait quelque chose de magique en arrière de ça. Par contre, dans mon amour de... la psychologie, de la psychopop, de... je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment le fun dans se faire tirer aux cartes, trouver des intentions pour quelque chose, ça fait réfléchir. Puis je pense que même pour quelqu'un qui, des fois, est un peu moins à l'aise au début d'aller en thérapie ou d'aller consulter, je trouve que c'est une belle façon de faire une introspection puis de se poser des questions. Ça amène des réflexions profondes envers soi facilement.
Parfait. Donc là, c'est des cartes qui ressemblent au tarot, mais on est ailleurs. Donc,
j'adore.
C'est toi qui as les réponses,
okay.
Complètement. Voici les quatre questions. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Quel est le défaut que tu ne voudrais donner à personne? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué?
Bien, quand je regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de choses. Je vois des points noirs, je vois des cheveux gris qui poussent, mais je vois tout le travail que je fais sur moi, je le vois. Quand je me regarde dans le miroir, souvent, je vois ma mère, je vois mon père, je sais pas, c'est lourd de sens se regarder dans le miroir, je trouve. Il y a quelque chose de... Tu sais, on passe dans le miroir, devant le miroir tellement souvent dans une journée... Mais de vraiment prendre le temps de se regarder, tu sais, le soir, quand tu vas te brosser les dents, puis que tu regardes pour vrai, quand je me regarde dans mes yeux, je vois ma vulnérabilité, puis je vois ma force aussi.
Et ça se décrit comment, ça?
Je pense que ma vulnérabilité, tu sais, le regard que j'ai sur moi, j'essaie de me regarder avec beaucoup d'amour, puis beaucoup d'humilité. Puis je parle pas de physique, là. Je parle vraiment... de moi, de qui je suis, de ce que j'accomplis, de ce que j'arrive pas à accomplir, tu sais. Je pense que l'authenticité que je vois dans mon regard puis l'humilité que je vois, c'est assurément le petit gars qui est parti de loin puis qui est rendu où il est dans sa vie. Puis ça, ça, Ça n'a même pas de rapport avec la carrière. Ça n'a même pas de rapport avec ça.
Il est parti de où, ce petit gars-là? Quand tu dis de loin, c'est où?
Ben, je suis parti de Chicoutimi. Je me suis déraciné de ma région pour venir à Montréal pour étudier en théâtre.
T'avais quel âge à ce
moment-là? J'avais 17 ans. Fait que je vois ce petit gars-là qui fitait pas dans le moule de ce qu'il voyait autour de lui, puis pas que le moule autour de lui, c'était quelque chose de mauvais ou de pas bon. J'ai énormément d'admiration pour ma famille, pour...
Tu te reconnaissais pas?
Je me reconnaissais pas.
Il y avait pas de gens qui te ressemblaient?
Ouais, en étant aussi gay, je pense que j'avais de la misère à trouver un modèle, j'avais de la misère à trouver quelque chose qui allait m'amener à être ce que je voulais,
tu
à être comme je voulais.
Aussi gay, ça veut dire quoi ça? Aussi gay?
Ben, j'étais dans le sens que j'étais un petit gars différent parce que j'aimais les arts, parce que je voulais parler, parce que je voulais bouger, parce que je voulais faire des affaires comme ça. Mais aussi, j'étais gay. Fait que je sentais que j'étais différent.
À quel moment tu l'as su, ça? Que t'étais gay?
Je pense que je l'ai su assez tôt. Je pense que je dirais peut-être 10-11 ans. Mais je pense que j'ai compris que je l'étais plus tard, vers 16.
OK, donc il y a quand même une période où tu te poses des questions.
Ouais.
Il y a quelque chose qui ne ressemble pas aux autres.
Ouais.
Déjà, tu sais, mais tu ne peux pas l'identifier.
Exactement.
Clairement.
Fait que, tu sais, je pense que dans ce miroir-là, c'est beaucoup ça que je vois. Je revois ce petit gars-là, puis je vois cet homme-là maintenant dans ce miroir-là avec ses défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses. Mais son courage, sa ténacité, sa capacité de prendre une épreuve puis de la mettre dans son baluchon de vie puis de garder ce qu'il y a de beau dans cette épreuve-là puis de tasser le pas beau, t'sais.
Moi, je recule. Je veux revenir à ton petit gars-là.
Ouais.
Donc, à un moment donné, quand tu décides de venir étudier à Montréal, est-ce que c'est aussi pour éclore, pour essayer de te voir sur différents angles que tu n'as pas explorés encore?
Assurément. Je pense que oui, je pense que le désir de partir est aussi de me laisser fleurir, tu sais, de trouver l'espace pour le faire aussi, parce qu'assurément, même si j'ai une famille super ouverte, super aimante, il y a quand même quelque chose de moi qui a le désir d'aventure, puis qui a le désir d'autre chose de ce qui m'entoure. Fait que oui, ce départ-là, assurément, il était pour me donner des ailes puis me laisser l'occasion d'explorer certaines choses. Puis au niveau de ce que je suis, au niveau de ce que je veux, puis le plaisir d'aller me tromper aussi. Ah. Puis d'aller m'enfarger, tu sais. Je pense que j'ai toujours été un petit gars rigoureux qui fait les choses, qui je suis enfant unique, tu sais. Je fais ce qu'on me dit, j'obéis, je me suis jamais chamaillé. Je pense que de partir aussi, c'était une occasion d'aller me barrer les pieds, d'aller m'amuser.
C'est drôle parce que les gens essaient d'éviter ça.
Ouais.
Toi, tu t'as dit non, je suis prête à vivre autre chose.
Ouais. J'ai toujours su que je... Tu sais, je pense que je suis un gars équilibré puis raisonnable. Profondément.
Et mature, hein? T'as une grande profondeur.
Je pense que j'ai une bonne introspection, puis je pense que c'était un désir d'aller vivre des affaires, tu sais. De sortir un peu de mon confort, de sortir un peu de mon côté clean puis lisse. Ce que j'ai fait, ce que j'ai adoré, que je referais pas.
Pourquoi?
Parce que je l'ai fait. Okay. Je suis allé à la rencontre d'une facette de moi qui était inconnue. Puis j'avais juste besoin d'aller l'effleurer, d'aller le voir. Puis je sais que j'ai pas de problème de dépendance, j'ai pas ça en moi, j'ai de l'équilibre, mais j'avais besoin de vivre des affaires, puis je l'ai fait.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vécu ton premier amour ou tu l'avais déjà vécu avant?
Ça a été long, mon premier amour, hein, Marc-Claude.
Ah, c'est arrivé tardivement.
Hey, je suis farouche, moi.
Voyons!
Ouais, je pense que ça a été super long avant que je tombe en amour pour la première fois. C'était à 25 ans. Que j'ai eu ma première relation qui a duré 9 ans.
OK.
Moi, quand j'embarque, là...
Tes racines sont profondes. Quand t'embarques, t'as eu le temps de faire pousser tes racines pas mal.
Ouais. Non, je pense que... Aussi, tu sais, je pense que mon départ vers Montréal m'a permis de réaliser que j'avais ce tempérament-là d'être un peu « hard to get ». Difficile à atteindre. Puis c'était pas parce que je me trouve cool puis je me trouve mieux que personne, c'est juste parce que je savais que je me réservais pour une personne qui allait mériter ma vulnérabilité puis qui allait mériter mon entièreté. Fait que je pense
que tu connaissais déjà beaucoup.
Ben je pense que ça, il a fallu que je me découvre avant de réussir à tomber en amour. Fait que donc d'arriver à 25 ans puis de tomber en amour pour la première fois, j'avais quand même déjà un petit peu un bagage. J'étais parti depuis 17 ans, je vivais tout seul, je me démardais, j'avais 3 jobs pour payer mon loyer, j'allais à l'école, tu sais, fait que je me sentais déjà plus confiant en possession de mes moyens.
T'es autonome, parce qu'il y en a beaucoup qui se définissent dans l'amour.
Ouais.
Ils attendent ça un peu pour se découvrir face à l'autre, en réaction à l'autre.
Ouais, moi,
toi, t'as
pas
fait
du
ça
tout.
Seul.
J'ai fait ça tout seul. Puis je pense que, tu sais, j'ai mes failles en amour aussi, là. Dans le sens que je veux plaire, puis je veux que l'autre soit heureux, parfois au détriment de mon propre bonheur. C'est pas une bonne chose à 100%, ça. Mais je pense que, même à ce jour, puis j'essaie de me dire ça souvent, que pour moi, être en couple, pour moi, l'amour, c'est un bonus. Si je suis pas en amour avec moi, puis si je suis pas bien avec moi, cette relation-là a aucun sens. J'ai besoin de sentir que moi, je suis capable de partir quand je veux d'une relation, puis que je suis capable d'être heureux. Puis j'ai besoin de sentir que l'autre a pas besoin à 100% de cette relation-là pour se définir non plus. Donc c'est quand même un défi, puis c'est quand même dichotomique avec être en amour, là. Mais je suis profondément en amour, puis je veux que
mais
ça marche.
C'est exigeant
puis...
pour l'autre aussi.
C'est-à-dire
qu'il veut pas que tu te sens comme une espèce d'indépendance à travers tout ça.
Mais je suis investi à 400 000 %
Trop?
Oui. Souvent. Mais ça fait partie de moi, puis ça fait partie de ce que je travaille en thérapie. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui, je suis très, très investi, mais tu sais, je pense que aussi, il y a une facette de moi là-dedans qui me dit « Si je ne vais pas au bout de ce que je suis capable, je vais avoir des regrets. Puis je ne serai pas heureux de la façon dont j'ai géré certaines problématiques. Si je vais au fond, puis j'ai l'impression d'avoir tout donné, même si c'était trop, je ne pourrai jamais m'en vouloir. Puis je ne pourrai jamais me dire que je n'ai pas essayé. »
Moi, je me dis toujours, j'ai une phrase, c'est « J'aime mieux avoir des regrets que des remords. » J'aime mieux regretter quelque chose que j'ai fait qu'avoir des remords de ne pas avoir fait quelque chose, tu comprends?
Tellement.
Tu sais, quand tu le fais,
t'as
ton histoire, puis peut-être ça n'a pas marché.
Mais c'est dans ton petit baluchon.
C'est ça.
Puis tu sais, oui, je pense que je suis intense, tu sais, dans le sens où moi, je suis balance, là, un signe d'air. Tu sais, autant une balance, c'est équilibré, mais autant une balance, ça sait jamais ce que ça veut, puis ça oscille tout le temps entre deux affaires. Et 3, et 4, et 5, et 6.
Moi, j'ai deux filles de balance. Ça m'a confronté beaucoup.
Je comprends.
Hey, c'est quelque chose.
Ben, c'est de grande sensibilité.
Oui.
Grande fragilité.
Laisser le temps de décider aussi. Oui. Tu sais, moi, ça m'a ralenti, Félix-Antoine.
Oui.
Et ça, c'était très, très salvateur pour moi d'être entourée de balance, dans le fond. Oui. Parce que moi, c'est trop vite. Mais les balances, vous exigez quelque chose des autres que je trouve positif, mais... c'est de prendre le temps et de mesurer le pour et le contre.
Ouais. Puis j'ai ce côté-là aussi qui est complètement l'inverse. Moi, je suis un vide d'envie. Je fais des affaires, je pense après.
Fait que là, ta balance, t'as à mettre de côté.
Ouais.
Tu peux avoir un ascendant. Je connais rien à l'astrologie, mais t'as peut-être un ascendant qui vient justifier ça.
Assurément. Puis tu sais, je me sens quand même bien là-dedans. Je trouve que c'est sain. Puis... ouais, la réflexion de me dire, je fais quelque chose, j'y pense à... Tu sais, j'ai fait des rénaux dans ma vie, ça m'a jamais fait peur. Puis j'étais toujours en mode, OK, on fait ça, on l'essaye, on plonge, c'est pas un bébé. Si jamais ça marche pas, il va y avoir des twists, on va s'en sortir, tu sais. Fait que j'aime cette facette de moi qui est courageuse, qui est frondeuse, qui est...
ouais.
Mais il y a d'autres côtés de moi qui sont super balance, puis qui ont besoin de temps, effectivement.
J'ai l'impression que quand ta vulnérabilité est en jeu, il y a plus de réflexion.
Je dirais même plus de la réflexion, je dirais un tourbillon. C'est plus de la réflexion rendue là, ma fille. Je me perds. Puis tu sais, je me perds, là, solide, là, dans ma tête, là, à faire des réflexions, puis tout ça. Puis c'est là, tu sais, ce que je te disais, de revenir à mon instinct, revenir à ce que je sentais au début, au feeling que j'avais. Souvent, le détour que je prends, que j'ai besoin de prendre, qui est probablement sain de prendre, me ramène à ce que je pensais.
Je suis sûre qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui se reconnaissent là-dedans.
J'espère. J'espère que c'est pas tout ça. Non, parce que là, rentrez-moi à l'urgence.
Non, mais ça, là. Je trouve que des fois, c'est pour l'autre qui, quand t'es différent, tu sais, qui est rendu dans sa tête. C'est ça, là, ce chemin-là, mais
ouais.
Tu l'exprimes bien. Ouais. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois tout ça en même temps, cette complexité-là que t'as.
Oui, je la vois, tu sais, c'est sûr. Je me brosse les dents, je passe pas une demi-heure devant le miroir, mais je sens ça.
Mais tantôt, tu disais, je vois mon père, je vois ma mère. Qu'est-ce que tu reconnais d'eux en toi? Quand tu te regardes dans le miroir.
Oh mon Dieu. Mes parents ont été parfaits dans leurs imperfections. Je pense que je viens d'une génération aussi. Mon père travaillait beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'argent, ni d'un bord ni de l'autre. Mes parents étaient séparés depuis que je suis très jeune. Mon père travaillait beaucoup. Il était fatigué, pas beaucoup de patience, mais énormément d'amour, puis de confiance en moi, puis de respect. Puis du côté de ma mère, j'ai eu tout ce côté fou, intense, émotif, intéressé à l'autre, curieux. Puis je le vois, je le sens. Puis des fois, je me disais, oh mon Dieu, je suis tellement comme ma mère. Puis à un moment donné, je suis comme, oh non, je suis vraiment aussi comme mon père, tu sais. Puis je trouve que c'est super riche. Moi, j'ai une qualité qui est peut-être un défaut aussi, c'est que j'oublie vite. J'oublie vite ce qui me fait mal, j'oublie vite ce qui m'a traumatisé, j'oublie vite ce que j'ai pas aimé. Puis le beau ressort tout le temps rapidement. Fait que tu sais, dans toutes les familles, on a toutes des histoires, même si on a des familles parfaites, on a toutes des histoires avec nos parents, des affaires, des blessures. Mais on dirait que j'oublie tout parce qu'ultimement, je suis rendu où je suis. Je serais rien sans ni mon père ni ma mère. De ce que je suis aujourd'hui. Puis je suis vraiment fier. Je suis content d'avoir le chemin que j'ai. Je suis content des imperfections du chemin de notre famille. À certains niveaux, c'est sûr que j'aurais aimé avoir une famille unie. C'est sûr que j'aurais aimé avoir autre chose comme modèle familial. Mais je trouve que mes parents ont réussi à faire le mieux avec ce qu'il y avait. Puis si je suis capable de faire la même chose, parce qu'aujourd'hui, je comprends que c'est pas facile. Je comprends que en tant qu'adulte, mets-moi un enfant dans les bras en ce moment, là, c'est sûr que je pédale aussi, puis c'est sûr que je suis pas parfait. Fait que je me mets dans la peau de mon père, de ma mère à l'époque, d'avoir un bébé dans les bras dans la trentaine. Si je me dis toujours que si jamais je suis capable d'être la moitié de ce qu'ils ont été, ça va être incroyable.
Wow, c'est un beau constat.
Ouais.
Hein, c'est faire la paix, mais regarde, moi j'ai envie de continuer avec tes parents.
Amène-moi.
Je t'amène ailleurs. Mais on reste avec tes parents. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui t'a manqué? Là, tu me parles, tu retiens le positif, mais je suis quand même curieuse de t'entendre là-dessus.
Je pense que ce que j'ai pas reçu de mes parents qui m'a manqué, qui me manque encore, puis qui va me manquer toute ma vie parce que ma mère est décédée, c'est de l'union. J'ai manqué de mon père, ma mère en équipe. Au-delà de la séparation.
Tu les voyais pas ensemble,
jamais,
tes parents?
Jamais, jamais, jamais. J'ai manqué de ça. J'ai manqué de voir mon père qui apprécie ma mère pour ses qualités de mère. J'ai manqué ma mère qui apprécie mon père pour ses qualités de père. J'ai manqué de mes parents qui mettent de côté toute leur discorde pour au service de moi, l'enfant que j'étais. C'est ce qui m'a manqué puis c'est ce qui me manque encore.
Est-ce que tu leur as adressé à un moment donné dans ta vie?
Oui, parce que, veux pas, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère il y a 3 ans, puis ça, tu sais, veux pas, ça brasse des affaires, puis ça remet les choses en perspective, puis j'ai eu la chance d'adresser certaines choses, puis de nommer des choses qui m'ont blessé, puis qui me blessent, puis je pense que tout le monde sait comment je me suis senti à certains égards, puis tu sais, encore une fois, tout le monde a fait de son mieux avec ce qu'il y avait. Mais j'avais juste envie de dire, parce que moi, je suis des psys sur Instagram. Là. Puis, il y a quelque chose que j'ai entendu récemment qui a vraiment fait écho sur la capacité d'entendre quand quelqu'un a été blessé par ce que tu as fait. Puis la capacité de le recevoir, même si pour toi, c'était pas blessant. Ou même si pour toi, à tes yeux, c'était pas dérangeant. Puis l'image qu'il y avait, c'était... OK, donc, t'acceptes pas que ce que je te dis, ça m'a fait de la peine. Non. OK, fait que si moi, mettons, je te roule sur le pied en auto, ça te fait mal? Oui. puis tu es capable de comprendre que c'était pas mon intention, c'est un accident, j'ai roulé sur ton pied par erreur. Oui. Donc, est-ce que je peux m'excuser de t'avoir fait mal sans pour autant porter la raison de cette affaire-là? Oui. Voilà. Moi, ce que je veux t'adresser, c'est mon expérience de vie. Te dire, si ça avait été comme ça, j'aurais aimé ça. Maintenant, j'aurais aimé ça que ce soit comme ça. Est-ce que tu peux t'excuser juste, même si tu n'as pas réalisé ça, que ça m'a fait mal, que ça fait partie de mes blessures?
Tu as fait besoin d'être validé, d'être reconnu dans cette souffrance.
Exact.
Est-ce qu'elle l'a accepté, ta mère?
Oui. Et puis mon père aussi. Puis ça fait du bien.
Oui, qu'est-ce que ça a changé, ça?
C'est rien, en fait. Tu réalises que c'est rien, que c'est correct, puis que probablement, que profondément, les deux le savaient, tu sais. C'est juste qu'on vit tellement dans le silence, puis dans on met ça derrière nous, puis on avance. Puis moi, j'avance avec ça, que rendu un certain âge, je suis comme, ah non, mais j'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de le dire.
Est-ce que justement, ça a arrêté cette attente-là, tu sais? Parce que cette attente-là, c'était présent dans ta tête. Cette attente de reconnaissance de vous. Il y a quelque chose qui m'a manqué, nommez-le, t'sais, dites-le-moi, ou bien assumez ça. T'sais.
Moi, ça m'a satisfait. T'sais, après ça, eux, leur chemin, ça ne m'appartient pas. T'sais. C'est moi qui choisis de...
Mais
de...
si tu ne l'avais pas nommé, ils ne t'en auraient pas parlé.
Probablement jamais.
Mais c'est fou parce qu'eux, ils ne le voyaient pas, cet aspect-là. Ouais. Mais c'est important ce que tu dis parce que souvent, on attend des autres des choses qu'ils ne voient pas puis on est toujours éternellement déçus.
Mm-hmm.
Mais d'aller à la recherche de ta réponse, d'aller à la recherche de ton... nommer ton inconfort, ça a changé la suite.
Oui.
Parce que t'as fermé, t'as tourné ce chapitre-là.
Vraiment. Puis les choses changent. Tu sais, puis c'est vrai que j'ai manqué de ça, tu sais. J'ai manqué de ce modèle familial-là uni. Même dans la séparation, j'ai manqué de ce modèle-là de famille qui... où je sens que les deux sont en équipe, tu sais. Aujourd'hui, mon modèle familial, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient séparés, qu'ils soient deux amis qui décident de faire un enfant, pour moi, le modèle de famille, il peut être tout ce qu'il veut. On a juste besoin de communication, on a juste besoin d'être capable de mettre notre ego de côté puis de faire, bon, pour le bien de cet enfant-là, on doit être ensemble, on doit se parler.
Il y a une chanson qui dit « On a mis quelqu'un au monde ».
On devrait peut-être l'écouter.
Exactement. Puis, mais tu sais, c'est comme dans le fond, on a mis quelqu'un au monde. Là, on comprend que c'était deux parents. Fait qu'on devrait peut-être continuer ensemble, ouais, malgré tout.
Oui.
Mais c'est un grand message que tu lances. Parce que ça doit résonner chez des gens, tu sais. Ouais. Parce que des fois, l'amertume, la trahison, tu sais, des fois, peu importe la raison de la séparation, des fois, il y a une douleur. Mais quand il y a un enfant, il y a un lien, il y a un trait d'union qui va toujours rester là.
Oui, puis c'est ça l'image que j'ai, tu sais, c'est comme si mes deux parents m'avaient roulé en char sur le pied, puis j'étais comme, « Hey, je sais que vous avez pas fait exprès, mais y a-tu quelqu'un qui peut dire, je comprends que ça te fait de la peine, je comprends que ça te fait mal, c'était pas notre intention, maintenant, bon, on va faire un bec et bobo, puis c'est fini, tu sais. Y a pas de mort. »
Mais si ta mère avait pas été dans cet état-là, est-ce que tu en aurais parlé?
Probablement. Probablement, oui. Je pense que, tu sais, j'avais une vraiment belle relation avec ma mère. J'étais capable de parler de tout, tu sais. Puis j'avais déjà adressé des choses à ma mère, tu sais. Mais c'était toujours en mode... ouais, mais tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Autre temps, autre mœurs, oui. Puis... Mais je pense que d'adresser les choses dans un contexte où tu sais que les conversations sont comptées...
Il y a une date de péremption.
Ouais. Il y a peut-être une meilleure réception, puis une meilleure, je sais pas, un meilleur accueil.
Mais c'est là ou jamais, hein?
Ouais.
Fait que tu l'as adressé, mais ça, c'est du courage.
T'es-tu fière de moi, Marc?
Je suis fière de toi.
Merci.
Mais je suis fière de toi, parce que je te dis souvent, on espère que l'autre devine.
Ouais.
Puis ça, il y a des gens, là, qui, toute leur vie, vont porter ça, puis quand la personne disparaît, ben ils n'ont pas eu la réponse.
Ben puis... plus loin que ça encore. T'sais, moi, je dis que je suis enfant unique. T'sais, j'ai toujours été tout seul. Tout seul parce que j'ai pas de fratrie. Tout seul parce que mes parents sont séparés. Tout seul parce que j'étais le seul enfant. Fait que j'étais toujours moi contre un ou l'autre ou contre les deux. Puis la maladie de ma mère, le décès de ma mère a exacerbé ce sentiment de solitude-là ou le fait ressortir. T'sais. Parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment seul. j'avais personne avec qui partager ma peine que ma mère était malade. J'avais personne avec qui partager ma peine.
Est-ce que tu peux pas le faire avec ton père non plus?
Non.
OK, ça va jusque-là.
Ouais.
C'est quand même profond.
Je sentais que c'était pas la bonne personne. Puis, je pense que c'est correct aussi, tu sais. C'est pas... j'ai pas envie de réparer cette affaire-là une fois que ma mère est partie.
Non, mais dans le sens que c'est ton fils qui a de la peine.
Ouais.
Peu importe.
Ouais.
Ton fils a de la peine.
Mais je pense que, tu sais, la peine que j'avais, que j'ai adressée, était dans l'espoir de retrouver cette union-là que j'avais jamais eue, tu sais. C'était pas la bonne raison pour moi d'aller vers mon père avec la peine du décès de ma mère.
T'es allé vers qui à ce moment-là?
Vers mes amis, ma famille de choix, je dirais. Je pense que, tu sais, c'est ça aussi, partir, se déraciner de sa région jeune, puis se construire une vie, c'est que tu construis une famille, des amis précieux qui deviennent comme tes frères, comme tes sœurs. Puis heureusement que j'ai eu ces gens-là autour de moi. Sarah-Jeanne. Si j'avais pas eu Sarah-Jeanne, je sais pas ce que j'aurais fait.
Qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie, Sarah-Jeanne?
Ben, si tu me ramènes à cette époque-là, ça a été mon fort. Mon fort. Puis mon fort. Vraiment. Dans une situation où, en pleine pandémie, j'étais en train de perdre ma mère au Saguenay. Il y a des moments où je pouvais pas y aller. Ça a été terrible, tu sais. Les circonstances ont été dégueulasses. Mais je pense que Sarah et moi, on a une relation vraiment particulière, précieuse. Qui s'explique pas toujours. Très protectrice. Je suis très protecteur aussi d'elle. Pis c'est ça aussi des fois, tu sais, je pense que si j'avais eu une sœur, ça aurait même pas été à ce niveau-là.
C'est très, très profond, là.
Ouais.
Ça fait longtemps que tu la connais?
Ça fait 15 ans. Je l'ai connue sur Starbucks. Première journée de tournage. je sortais de l'école, c'était mon premier tournage, j'étais bien impressionné. Puis Sarah travaillait déjà beaucoup à l'époque, puis elle me prit sous son aile. Elle était comme, bon, viens, m'a montré comment ça marche. Bon, là, tu vois, ça, c'est le craft, ta-da-da. OK, là, faut que t'ailles, là, faut que tu fasses ça. Fait que c'est vraiment devenu comme un peu mon mentor dans ce tournage-là. Elle m'a pris sous son aile, comme son petit frère.
Je la connais pas, Sarah-Jeanne, tu sais, je l'ai rencontrée, on se connaît, c'est comme ça, mais... Je ne connais pas dans l'intimité, mais j'ai l'impression que c'est une fille tellement pratico-pratique, tellement grounded, tellement présente. T'sais, elle a quelque chose de facile d'accès, mais il n'y a pas de niaisage. Je ne sais pas, mais je la sens tellement là.
Oui, tu l'inviteras. C'est une super bonne invitée pour ton podcast. Elle est... Ben, tu sais, moi, je... Elle est extraordinaire. On ne s'est pas rencontrés pour rien.
Puis elle était là quand on a eu... besoin. En tout cas, c'était un besoin particulier, c'était un besoin qui était...
Quand j'ai appris que ma mère avait un cancer, à ce moment-là, ça allait pas super bien dans ma relation amoureuse. Puis c'est Sarah qui me dit « Embarque dans le char, on s'en va voir ta mère. » Puis on a fait Montréal-Chicoutimi aller-retour dans la même journée. Juste pour aller voir ma mère un petit peu.
Elle savait que c'est de ça que tu avais besoin.
Ouais. Fait que ça... Il y a comme rien qui peut me faire oublier ça, tu sais.
Elle te sent.
Ouais.
Elle te sent beaucoup.
Je pense que oui.
Puis tu imagines, c'est réciproque aussi.
Je pourrais... Tu peux même pas imaginer ce que je peux faire pour elle. Puis des fois, je suis pas toujours la bonne personne. C'est ça aussi. C'est d'apprendre à comprendre que moi, ma limite est là où, tu sais, des fois, il faut attendre que quelqu'un lève la main pour demander de l'aide ou pour avoir un service ou pour quelque chose. Mais je suis vraiment sur le banc, là. Je suis toujours prêt. Je pourrais être là dans la seconde. Elle m'écrirait là qu'elle a besoin. Je ferais « Désolé, Marie-Claude, faut que j'y aille, je reviens. »
As-tu fermé ton téléphone?
J'ai fermé mon téléphone.
Merci.
Oui.
T'écrives pendant.
Est-ce excuse-moi, j'ai besoin de lait 2%. Parfait, excuse-moi, ma bye.
Excuse-moi, je vais te quitter pour le moment. Ah, quel beau témoignage d'amitié.
Ouais.
C'est mouvant, ça, l'amitié. Comme tu dis, c'est un choix.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on doit nourrir, l'amitié, parce qu'il n'y a pas de lien qui nous retient comme la famille. On sait qu'on va se revoir, mais pas l'amitié.
Non.
Donc, c'est un lien qu'il faut entretenir.
Ouais, puis c'est fou parce que, tu sais, sur papier, en ce moment, on a deux vies qui se ressemblent pas pantoute, là. Tu sais, elle a des enfants, elle a une famille. Moi, je suis célibataire. Ben, je suis pas célibataire dans le sens, je suis célibataire d'enfant. J'ai pas d'enfant, je suis en couple, mais tu sais, il y a comme quelque chose de... Puis on se retrouve là-dedans, tu sais. Vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment chanceux, privilégié.
J'aime ça quand on parle d'amitié. Je trouve que c'est des relations exceptionnelles. Ouais. Mais surtout quand on trouve comme presque un âme sœur, comme tu décris.
Ouais.
Ça, c'est précieux.
Ouais.
Es-tu prêt à passer au niveau jaune?
Oui, je trouve que le vert était déjà popé. C'est pas fait.
Alors, tu m'en donnes trois. Tu en pêches trois.
OK, c'est un décrescendo.
C'est un décrescendo. Il y en a moins, tu en pêches trois. Tu vas en choisir une, je vais en choisir une aussi. Merci. Là, les cartes te parlent.
Elle me parle.
OK. Alors, j'y vais. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Quel type d'amoureux es-tu?
Ah, c'est intéressant. Vas-y donc, encore, voir.
As-tu négligé certains aspects de ta vie? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Quel type d'amoureux es-tu?
Ben, je pense que le plus grand défi que j'ai eu à surmonter...
C'est celle qui disait quelque chose.
Ouais?
Quand tu l'as tournée.
Ah ouais, t'as remarqué ça?
Ouais.
Sorcière. J'adore. OK, ben oui. C'est vraiment ça, c'est elle qui me parle le plus. Le plus grand défi que j'ai eu à surmonter de ma vie, c'est assurément la maladie de ma mère.
Raconte-moi, t'as quel âge quand t'apprends que ta mère est malade?
J'avais 32. Ça s'est fait vraiment vite, là. C'est un an à partir du moment où ma mère... a appris qu'elle était malade et son décès. Puis pendant cette année-là, on est tombé en pandémie.
Mais là, elle t'appelle, elle t'annonce ça, comment?
Ouais, dans le fond, c'est ma marraine qui m'a appelé. Ma mère est rentrée à l'hôpital à un moment donné parce qu'elle est tombée pendant la nuit, puis elle s'est fait mal à l'épaule, puis quand elle était à l'hôpital, ben ils l'ont gardée. Puis ils ont fait comme un bilan, puis ils ont fait des tests, puis tout ça. Puis ils ont découvert un cancer du poumon. Au stade 4. Fait que c'est ma tante, ma marraine qui m'a appelé pour me le dire, je m'en souviens. J'étais en Floride avec Sarah. Puis j'ai appris ça là. Et à ce moment-là, évidemment, quand je suis revenu, je suis allé la voir, tu sais, puis tout ça. Fait que à ce moment-là, il y avait un projet de. Pour ma mère, c'était indiscutable. Elle voulait se battre, puis c'était comme. Je vais faire ce qu'il faut, puis tout ça. Fait que ma mère a commencé la chimio. Ça a été super, super, super tough. Physiquement, mentalement aussi, des gros effets secondaires et tout ça. Puis rapidement, ma mère habite seule. Rapidement, on a constaté avec elle que c'était difficile d'avoir la chimio, puis d'être toute seule, puis de prendre soin d'elle. Fait que moi, j'ai proposé, tu sais... qu'elle est dans un centre, tu sais, la semaine après sa chimio. On pourrait faire organiser quelque chose pour que tu ailles dans une résidence privée une semaine après ta chimio pour que tu puisses te remonter puis tout ça. Fait que ça a fait son chemin, puis pendant certaines semaines de traitement de chimio, on a fait ça. Puis rapidement, quand même, on a constaté aussi que c'était mieux qu'elle reste là. Elle aussi, elle se sentait plus en sécurité. Fait que... ça s'est vraiment fait d'une drôle de façon. T'sais, du jour au lendemain, ma mère a eu le cancer. Elle a commencé à faire de la chimio. Elle est rentrée dans un centre pour se remonter. De ce centre-là, à un moment donné, elle en est pas ressortie. Elle est restée là. Puis c'est drôle parce que t'sais, ma mère était très solitaire. Puis dans ce changement de vie immense d'aller en résidence pendant ta maladie, ma mère s'est transformée. Ma mère, s'est fait beaucoup d'amis. C'était la star de la place. Elle jase avec tout le monde, elle était connue. Tu sais, il y a quelque chose d'elle, il y a une lumière qui a ressorti d'elle dans cette période-là où elle a habité en communauté qui était magique, tu sais. Puis, moi, pendant ce temps-là, ce qui a été difficile, c'est qu'il a fallu que j'aille vider sa maison. J'ai fait ça tout seul pendant 2 jours. On m'avait proposé de l'aide, mais je tenais à le faire tout seul. J'avais besoin d'un côté un peu mélancolique qui avait besoin de ça. Tu sais, cette maison-là, en fait, c'est un appartement. Puis c'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis né, tu sais. Fait que j'ai vidé toute ma maison d'enfance. J'ai fait le ménage, le tri. Ma mère m'avait comme donné carte blanche. Fait que ça a été super difficile de faire ça.
C'est un voyage dans le temps.
C'est un voyage dans le temps. Un
voyage dans tes émotions.
Un voyage dans mes émotions. C'est aussi une partie du deuil qui se concrétise en amont de ce qui s'en vient, ce qui est inévitable. C'est quand même tough, tu sais. Puis je peux pas parler pour l'inverse parce que je l'ai pas vécu, mais j'imagine que de vider une maison quand quelqu'un que t'aimes est parti... C'est difficile, mais de le faire de son vivant...
Présent, j'avoue que c'est un défi supplémentaire.
Il y a quelque chose de spécial. T'sais. Puis à ce moment-là, on ne savait pas ce qui se passait. T'sais. Elle faisait la chimio, il y avait quand même l'espoir.
Okay. Mais elle voulait quand même que tu fasses ça. Peut-être que ça la libérait.
Oui, puis on savait qu'elle ne retournerait pas à la maison. T'sais. Dans tous les cas, c'était plus sain pour elle d'être dans cet environnement-là puis d'être prise en charge.
As-tu l'impression qu'elle avait un lâcher-prise à ce moment-là? C'est pour ça qu'elle laissait rentrer les gens dans sa vie. C'est comme ça, là. Elle a lâché-prise sur un paquet de choses, puis elle s'est dit, c'est maintenant que ça se vit.
Je pense que oui.
Elle a baissé la garde.
Oui. Je pense qu'elle n'a pas eu le choix. Puis je pense que... c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire-là. Parce qu'ultimement, elle est partie heureuse, elle est partie entourée. J'ai eu accès à cette maman-là qui était lumineuse, qui a retrouvé une certaine joie de vivre, tu sais, avant de partir. Puis, tu sais, il y a un moment où j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce qui serait arrivé si on l'avait pas sortie de son appartement, tu sais. Elle serait morte seule chez eux. Parce que, tête de cochon, orgueilleuse. Puis, elle serait pas allée chercher de l'aide, puis... Il y a comme quelque chose de ça aussi qui m'apaise, de me dire, de son plein gré, étape par étape, on l'a amené vers quelque chose de super beau. Puis c'est à ça qu'elle a touché avant de partir. Mais l'étape de vider l'appartement m'a démoli. L'étape de la pandémie, de pas pouvoir aller dans la résidence, quand je te parle du 24 heures de route avec Sarah, c'était pendant la pandémie, quand on pouvait pas rentrer dans les résidences. Puis on est allé aller-retour une journée, juste aller manger du Kentucky avec ma mère sur la galerie, dehors, avec un masque, pour passer un peu de temps avec, puis porter des niaiseries, là, des gratteux, puis un 7-Up diet, des affaires qu'elle aimait, juste un petit panier cadeau d'affaires cute. C'est quand même fou, tu sais.
Ce moment-là, tu dois t'en souvenir tout le temps.
Mon Dieu, c'est incroyable. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Je m'étais mis un kit, tu sais, puis avec le recul, c'est quand même fou parce que... Je sais pas si je ferais les choses de la même manière, tu sais, avec ce qu'on sait de la COVID aujourd'hui, puis des mesures et tout, mais...
T'aurais moins respecté?
Probablement.
T'en aurais profité. T'aurais profité de ta mère, de toucher ta mère,
j'imagine. J'aurais plus pris maman dans mes bras. C'est
ça, parce que t'as pas pu la toucher.
Ouais. Puis ce moment-là, tu sais, je me souviendrai toujours, j'avais acheté une affaire au Canadian Tire, une espèce de full kit pour peinturer, là. Puis je m'étais mis des lunettes, puis un masque, puis des gants. Puis tu sais, ma mère était en chimio, puis elle était immunosupprimée. Fait que tu sais, je dis que j'aurais fait les choses différemment, mais...
C'était pour la protéger, elle.
C'était pour la protéger, tu sais.
C'était pas toi, là.
Puis je me souviendrai toujours, on était dehors sur le balcon, puis elle m'a pris dans ses bras, puis on s'est collé. Puis j'ai une vidéo de ça, parce que Sarah avait filmé le moment, puis c'est une affaire que je vais chérir toute ma vie. Puis elle me prenait dans ses bras, puis elle me dit « Ah, qu'on est bien, c'est chaud. » Puis elle me serre, puis elle me chante en veillant sur le perron de Dominique Michel. Puis moi, je m'étais dit « Je vais jamais partager cette vidéo-là, je vais toujours garder ça pour moi. » Puis l'année passée, j'ai eu mon En direct de l'univers. Puis une semaine avant mon En direct de l'univers, j'ai dit « Ça se peut pas que ça fasse pas partie d'une certaine manière de mon cadeau d'avoir mon En direct de l'univers. » Puis j'ai écrit à France, puis j'ai dit « Je t'envoie la vidéo. Je veux que ça soit fait avec respect. Je veux pas qu'on voit la vidéo, mais tu peux l'utiliser comme tu veux. » Puis je pense que je me suis tellement retenu parce que je m'en serais pas remis. Ça a parti. Ils ont juste mis le son de ma mère qui chante en veillant sur le perron. Puis c'est Sarah qui est venue chanter la chanson.
Puis tu t'en dirais qu'à la télé.
Ouais. Tu sais, c'est comme... Il y a des couches.
Il y a des... Mais
c'était
même...
elle qui était là.
Mais
c'était
tu
elle
rendais
qui
hommage
filmait.
À ta mère. Tu rendais hommage à ta mère.
Oui.
Tu l'as fait pour ta mère.
Ouais. Fait que cette période-là, tu sais... Ça a vraiment été difficile, tu sais, de pas avoir le contrôle sur comment je peux être là pour elle, puis comment je peux profiter de ces derniers moments-là. Fait que quand elle est partie, tu sais, ça a été super difficile, c'est sûr, mais...
Est-ce que t'étais là quand elle est partie?
Non, j'étais pas là. J'étais là la veille. Puis ça, j'ai jamais raconté ça. Non. Je suis allé la voir... Ce qui est dichotomique dans toute cette affaire-là, c'est que ma mère est partie à cause de la COVID.
C'est la COVID qui l'a emportée.
Elle
s'est battue avec la chimio de ça, et finalement, c'est la COVID.
Ouais. Elle était dans une place au Saguenay où ils gardaient les cas de COVID fermés, tu sais. Puis, je suis allé la voir... trois fois pendant ce 10 jours-là où elle a été. Puis je me souviens, j'étais allé voir le médecin à un moment donné, puis j'avais dit là, c'était sa 9e journée de COVID, puis j'avais demandé au médecin, j'ai dit là, 9e journée, tu sais, c'est quand même bon signe, elle allait quand même bien, tu sais, entre guillemets, là, c'est... Fait qu'il me dit « Oui, oui, tu sais, c'est sûr, 9e journée, le pire est derrière nous d'habitude, là, c'est entre la 5e, 7e journée, là, où ça sort, là, tu sais, puis que c'est plus... plus à risque, mais votre mère va bien, puis tout ça. » Fait que je suis allé la voir à cette place-là, encore toute gearée avec
ton petit kit
mon
COVID.
Kit jaune COVID, la visière, les lunettes, les gants. Là. Puis je suis allé passer 3 jours, puis j'allais voir ma mère tous les jours. T'sais. Puis la dernière journée, je me souviens, c'était un dimanche. Puis ma tante... Ma mère avait fait acheter des cadeaux par ma tante parce que on était le 20 décembre. Ma mère avait fait acheter des cadeaux par ma tante parce qu'elle pouvait pas sortir. Puis elle les avait fait amener où ma mère était, dans un sas en bas pour pas que ça soit contaminé. Puis ma mère m'avait dit « Quand tu vas partir, pars avec tes cadeaux. » Ma tante est venue les porter. Fait que cette journée-là, tu sais, c'est mon bye-bye, je m'en vais. Puis je prends la route, je prends mes cadeaux, je prends la route, j'arrive chez nous le soir, je fais un FaceTime avec ma mère. Puis elle me dit « Ouvre tes cadeaux, là. » Je suis comme « Non, non, maman, je sais pas, c'est Noël, c'est dans 3 jours, là. Capable d'attendre, là. » »« Non, ouvre tes cadeaux, je te dis, je veux que tu ouvres tes cadeaux. » « Parfait. » J'ouvre mes cadeaux, il est 8h le soir. Finalement, c'est des super beaux chaudrons, je capote, là. Des beaux chaudrons en fonte, genre le Creuset. Pas le Creuset, mais une marque... comme le Creuset. J'adore cuisiner, j'adore les articles de cuisine. Je trouve ça super, fait que je suis super content, puis tout ça. Puis ma mère est bien bonne humeur dans ce FaceTime-là, puis je me souviens, elle me dit « Ben, il faut que je te laisse, là, je m'en vais jouer aux cartes avec les infirmières, on s'appelle demain. » Parfait. Ma mère s'en va, je me couche. Le lendemain matin, j'ai un téléphone, je me réveille, puis sur mon téléphone, j'ai un appel manqué avec un message. Qui me dit « Oui, alors, votre mère a fait une détresse respiratoire pendant la nuit. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, ça serait bien que là, je rappelle. » Puis finalement, je parle à une infirmière qui me dit Ouais, c'est ça, votre mère a eu une nuit difficile. Là, ce matin, elle est sous oxygène. Puis là, je fais comme, OK, c'est-tu grave? C'est-tu, elle dit, moi, si c'était ma mère, je m'en viendrais. Fait que je me suis habillé. Puis on a repris la route pour le Saguenay. Puis 45 minutes plus tard, je suis arrêté au Tim Hortons pour m'acheter un café pour la route. Puis j'ai eu un téléphone pour me demander si j'étais assis, si j'étais tout seul. Puis ils m'ont annoncé que ma mère était décédée.
Absolument inattendu à ce moment-là.
Ouais. Et je me suis effondré comme dans un film, à genoux dans le Tim Hortons.
Ah, oh, t'étais dedans le Tim Hortons.
J'étais dedans le Tim Hortons. Ouais. Puis je me suis effondré à terre.
Et comme partie heureuse aussi.
Mon Dieu, 100% heureuse.
Ça t'apporte de la paix aussi.
Oui. Entouré, à jouer aux cartes.
Elle t'a donné ses cadeaux de Noël, elle avait un pressentiment.
Ah, tout ça, là, tu sais, c'est comme. Puis quand je suis arrivé là-bas, tu sais, j'ai continué la route, puis. Quand je suis arrivé là-bas, il l'avait laissé là, tiens. Il m'avait dit « Prends ton temps, sois prudent. » J'étais avec mon chum de l'époque, puis mon chum conduisait, puis il m'avait dit « Prenez votre temps, on touche à rien. Votre maman vous attend. » Puis quand je suis arrivé, j'ai passé du temps avec, on écoutait de la musique ensemble. J'ai pris le temps de parler aussi, puis... je pense que ça... Autant que c'est injuste, puis que c'est soudain, puis... Autant, je pense que c'est comme ça que c'est mieux que ce soit arrivé.
Ça partait de la question, le plus grand défi que tu as eu à son moment. En quoi ça t'a changé?
Moi, ma mère, j'y parlais à tous les jours. J'y disais tout. Puis c'était autant que ça me faisait chier d'avoir son avis, puis que ça me faisait chier de savoir ce qu'elle pensait sur ce que je faisais, sur mes choix, sur comment je vivais ma vie. Autant c'était ce qui guidait mes décisions, puis c'est ce qui poussait mes réflexions plus loin. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre sans elle.
C'est récent.
Puis c'est récent.
Fait que j'imagine que tu l'entends dans ta tête, à certains égards. Elle dit, moi, c'est pas ça que je ferais. Ou
je l'entends tous les jours. C'est Marie, je l'entends à tous les jours. J'y parle à tous les jours. Dans tout ce que je fais d'intense ou de plus gros ou de qui demande une réflexion ou qui demande à pop toujours. C'est comme si ma voix intérieure avait une face maintenant. Avait un visage.
Ta petite voix, c'est ta mère.
Ma petite voix, elle a la face de ma mère.
Ah, ouais. Fait qu'elle est en toi. Tu l'as transformée.
J'espère.
C'est une belle histoire malgré tout.
Je pense que oui.
Parce que ta mère s'est transformée, comme tu dis, est allée vers l'autre. Tu as une image de ta mère qui n'est pas seule.
Oui.
Ça fait du bien, ça.
Oui, vraiment.
Mais on peut-tu le dire, maudit de COVID?
Ouais, vraiment.
Tantôt, tu as parlé de ton amoureux, mais que tu étais comme exigeant quand même en amour.
Oui.
Mais...
Moi, allô?
J'entends ça un petit peu. Mais quel type d'amoureux es-tu? Sentimental, romantique?
C'est drôle parce que j'ai des discussions avec mon chum ces jours-ci, ces mois-ci. Puis je demande beaucoup de parler, de dire les affaires. Puis je me rends compte que je parle pas tant que ça. Je me rends compte que souvent, j'ai l'impression que je parle, j'ai l'impression que je dis des affaires, mais j'ai l'impression que ça reste beaucoup en dedans. C'est moi qui me parle, puis c'est moi qui me dis ça, mais il faut que je dise à haute voix
c'est des affaires. C'est très riche intérieurement.
C'est très riche à l'intérieur, mais ça peut être extériorisé, tu sais. Mais je pense que je suis un amoureux... je pense que je suis très... simple. Je suis pas compliqué, j'ai le bonheur facile, j'ai le rire facile, rien me rend heureux, là. Tu sais, je suis pas compliqué.
Tu dis un rien te rend heureux.
Ouais.
Et non, rien me rend heureux.
Rien me rend heureux aussi.
Attends, rien, OK.
Rien me rend heureux avec la bonne personne.
OK, toi, juste être là avec, Ouais. T'es déjà heureux.
Ouais.
Mais toi, t'es pas fusionnel. Si t'es prêt à partir.
Non, je pense pas que je suis fusionnel. Je pense que je suis très bien en couple. J'aime être à deux. J'aime être en équipe. J'aime cette image-là. Mais je suis pas fusionnel. Tu sais, mon chum peut partir 3 semaines en voyage à quelque part. Je pense que c'est lui qui va le plus s'ennuyer. Je vais m'ennuyer aussi, c'est sûr, mais je suis comme, ben non, mais c'est malade, tu t'en vas 3 semaines en voyage, profite-en, puis amuse-toi, puis on va s'appeler, on va s'écrire, puis c'est bien correct, là, tu sais, ça va, je vais m'ennuyer, mais c'est le fun de s'ennuyer. Tu sais, j'ai pas cet ennui-là viscéral, négatif, péjoratif. Tu sais, il y a quelque chose de positif pour moi dans vivre des affaires quand même. Mais je pense que je suis très, très dévoué. Ça, je peux me donner ça, je suis capable de me donner ça, là. Je suis dévoué, je suis présent, je suis à l'écoute, je suis généreux, je suis attentif aux besoins de l'autre, des fois trop.
Est-ce qu'il te le dit?
Oui. Toutes mes relations, on me l'a dit. Ça va, je suis correct. C'est correct. Je suis comme, ouais, je comprends. T'es sûr que ça va? Arrête de me demander si ça va. Ça va. Si ça va pas, moi, te le dire. Ça va-tu? T'es-tu heureux? T'es-tu bien? Fait que, tu sais, oui, j'ai ce côté-là de moi qui est un peu... Je veux vraiment que... J'ai besoin de ressentir que l'autre est bien. Mais des fois, tu sais, ça se manifeste pas par une fanfare puis des confettis, là, tu sais.
Est-ce que tu trouves, c'est personnel, t'es pas obligé de répondre, mais qu'on l'est assez envers toi attentif?
Des fois, oui. Des fois, non. Mais je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité qui me revient dans ça. Je pense que je suis entouré de gens qui sont attentifs, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à m'aider, qui sont prêts à me soutenir. Mais j'ai encore du chemin à faire dans nommer les affaires, exprimer mes besoins, nommer mes peurs. Fait que si je suis pas entendu, c'est pas parce que je suis pas bien entouré. Et amicalement, et amoureusement.
Alors que toi, on n'a pas besoin de nommer nos besoins, que tu essaies de les combler.
Puis c'est un problème.
C'est ça, parce que tu n'attends même pas qu'ils soient nommés. Ouais, ta balance.
Pour que je la ramène.
Donc, tu es un bon chum.
Je pense que oui. Ah, ah non, je pense pas que oui. Je suis un super chum.
Tu es un super
chum. Sérieux, là. Non, je suis vraiment un bon chum. Je cuisine super bien, je fais du ménage, je suis entreprenant, j'essaie des affaires, je veux des avances.
C'est quoi ton meilleur plat que tu cuisines?
Bon, moi, je suis pas né dans le bon pays. Je suis très heureux d'être ici, mais je suis méditerranéen.
OK, mais c'est bon pour la santé, ça.
Ouais, ouais. Moi, j'aime les pâtes, j'aime le poisson, j'aime les mon plat préféré, là, fais-moi une plotée de pâtes avec une salade capresse, puis j'ai 4 orgasmes, là. Je suis super content.
OK, puis toi, si tu reçois là, ton plat, là, tu sais, ton plat signature,
ça dépend Félix de la saison. Antoine, là. Si c'est l'hiver... Assurément, m'en faire le rôti de palette de ma mère. Tu sais, okay. Le rôti de palette a repris ses lettres de noblesse, là.
Je le sais.
Tu sais, c'était comme une bouffe un peu plus famille ordinaire, pas beaucoup de budget, ça nourrit beaucoup de monde, c'est pas long à faire, c'est pas compliqué, c'est protéiné. Mais moi, le rôti de palette, là, je te sers ça, ma fille, là, c'est une grosse planche avec des légumes, une belle purée. Puis d'ailleurs, ma purée, ça...
C'est quoi le secret?
Je l'ai volé à quelqu'un, c'est de l'amour, ma fille. Puis je te jure, si tu viens manger chez nous à un moment donné, puis je te fais cette purée-là, ça peut mériter une demande en mariage.
Ah, à ce point-là?
Ouais.
Mais toi, t'as déjà fait une émission de cuisine?
Ah non.
Il me semble que j'ai jamais vu là-dedans, mais non. Tu pourrais.
Ah, j'aimerais tellement
t'en
ça.
T'en parles, là, puis je te
j'aimerais
vois.
Ça,
là,
puis j'aimerais ça, faire un livre de recettes. J'aime ça cuisiner. Je passe beaucoup de mon angoisse, Marie, là-dedans. Puis de ma peine. Puis moi, pour moi, une journée réussie, là, mettons, si je suis une journée où je me sens bleu. Une belle journée, puis une journée où genre j'ai réussi à faire quelque chose dans une journée de marde, c'est d'avoir... Je suis vraiment une femme d'un certain âge. C'est d'avoir réussi à faire le ménage de ma cuisine, d'aller au marché, de m'acheter des aliments que j'aime, faire une recette, refaire le ménage de ma cuisine, puis m'asseoir dans mon salon avec une chandelle allumée, puis ma cuisine propre, puis mon frigo plein. Moi, ça, là...
Le paradis. Moment de grâce.
Je te jure, j'aime ça. J'aime cuisiner, j'aime couper des affaires. Si tu me dis de couper ça en brunoise, je te coupe ça en brunoise. J'aime ça.
Mais là, pourquoi
ça.
T'es pas un Masterchef, là?
Ah, c'est sûr que j'ai... Ouais, mais ouais.
T'aimerais-tu ça, tu sais? Tu t'en serais-tu?
Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais tu sais, je suis bon pour essayer des affaires. J'ai quand même des livres de recettes, mais Tu sais, j'aime apprendre aussi, puis je me risque rarement dans, mettons, je vais faire une lotte à la vapeur avec, tu sais, j'ai des valeurs sûres, mais c'est toujours bon, je pense. Mais je me vante, là, ça n'a pas de bon sens.
J'aime ça, mais ça donne... Mais non, mais attends une minute, j'espère qu'il y a un producteur qui t'écoute, puis tu vas avoir ton émission de cuisine, parce que la cuisine, comme tu l'exprimes, tu sais, quand ça vient de partout...
Elle est émotive aussi, ma cuisine, tu sais. Elle est liée aux émotions, tu sais, je me valorise beaucoup là-dedans. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le partage aussi d'agréable et de riche. Je trouve que ça rend heureux, ça sent bon, c'est beau. Tu sais, tu me suis sur Instagram. Moi, sur Instagram, c'est rare. Je mets de temps en temps une belle photo de moi en tournage où j'ai un beau kit, mais règle générale, je mets des stories de genre une plotée de légumes qui est en train de cuire ou bien du résultat de mon repas. Je trouve ça beau, j'aime ça, puis je trouve que ça exprime quelque chose de moi.
Ben, tu sais, moi, j'ai eu un accident, là, puis j'ai comme rien fait pendant des semaines. J'étais encore un peu là-dedans. Et il y a quelques jours, j'ai fait une soupe. Tu sais, une soupe maison, mais on dirait que c'était un moment important de ma réhabilitation, d'être capable d'aller couper mes légumes, mais de faire de quoi de maison.
Ouais.
Moi, la soupe, les potages, là, je veux dire... C'est...
Passion soupe.
Passion soupe.
Mais oui, c'est bon, des belles soupes maison. Oui,
mais ça m'a fait du bien à l'âme, meilleur que n'importe quelle pilule, tu sais, de reprendre comme la cuisine, c'est comme le quotidien. Il y a quelque chose dans cuisiner qui est très... comment on dit ça? Curatif dans la cuisine. En tout cas, moi, j'attends ton émission de cuisine.
Ah, j'aimerais
ça. Mais tu sais, ton émission de déco, t'es hyper passionnée, tu fais rire le monde, t'es drôle. Mais te voir au chaudron, là... J'aimerais ça.
Mais j'aimerais ça. Tu sais, je serais bon pour être un peu co-anchor d'un bon chef, là. Tu sais, comme...
Oui, parce que tu poserais les bonnes
affaires,
questions.
Essayer niaiser, puis poser des questions.
Bien, parce que quand t'aimes ça, c'est sûr que t'as les bonnes questions qui viennent. OK, mais moi... En tout cas, j'espère qu'un jour, tu m'inviter à manger chez vous. Là, j'ai le goût de manger
chez vous.
Qu'est-ce
qu'il faut que je te fasse pour que tu capotes? C'est quoi ton plat préféré? Qu'est-ce que t'aimes?
Ben moi, c'est les poissons. Moi, là, je suis vraiment poisson et salade.
Récemment, je suis allé au restaurant et j'ai mangé un roblos complet frit. J'avais jamais mangé ça. C'est vraiment genre un poisson qu'ils font juste descendre dans l'huile, ils te l'ouvrent, puis il y avait une espèce de mayonnaise, yogourt nature, coriandre, lime, un peu épicé. Je pense que j'ai été vulgaire tellement que j'aimais ça dans mon expression. Là. Ça va être ma prochaine tentative.
Ah, écoute, ça, là, les poissons, là, moi, je me tanne pas de ça. Justement, frit, bouilli, peu importe, même sur le barbecue, sur le grill, tu peux le faire.
Ouais.
C'est... Un beau poisson complet. On va virer ça en ouvre ton jeu spécial cuisine.
Ouvre ton frigo.
J'adore. Ouvre ton frigo. Est-ce que tu es prêt à passer au niveau rouge?
Oui. Je suis bien réchauffé.
Oui. Tu m'en donnes deux de ces questions-là.
OK.
Et tu vas en choisir une.
OK.
On répond à seulement une question rouge. Moi, je trouve que quand on cuisine, on n'est jamais seul.
Mais non.
Hein?
Hey, tu te mets de la petite musique. Tu sais, venez pas me dire que c'est pas ça le bonheur, là.
Surtout quand ta maison est propre.
Ah, mais c'est le meilleur feeling.
Quand tu dis ça tantôt, je t'allais
vous aussi. Oui, ton lave-vaisselle, il faut qu'il soit vide. Ton évier est propre, ton poêle est propre. Là, t'arrives avec ton épicerie, tu places ton épicerie, tout est clean. Puis là, ça part.
Hey, là, tu cuisines. Puis tu sais, quand tu 5 à 7 avec ton petit verre de vin,
belle
fois. Ah, voilà. Bon, ben là, je trouve que t'as une question quand même qui ressemble tantôt. C'était le défi. Là, c'est quelle épreuve a été le plus difficile à surmonter? On dirait que j'en prendrais une autre. Je pense que tu as répondu. Est-ce que je me trompe?
Oui.
Hein? On va... Parce que défi, épreuve, t'as... Bon. Quelle place accordes-tu à l'intimité?
Ouh!
Oh. À quel besoin profond ton chum répond-il?
Je pense que... Quelle place accordes-tu à l'intimité va répondre aux deux.
Parfait.
Plus ça va... Je pense que la pandémie m'a amené ça. Bon, évidemment, c'est pas un épisode spécial pandémie, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un de super ouvert, super outgoing, aimé sortir, aimé être avec du monde. J'ai travaillé longtemps en restauration, dans des restaurants où c'était festif. Début de carrière aussi, je ressentais le besoin d'être partout, d'être vu pour me bâtir, pour montrer que j'existais, pour me faire entendre. Puis plus ça va, plus... Je suis moins à l'aise dans ces contextes-là. Plus ça va, plus je suis bien chez nous, plus j'aime être avec mes amis seul, plus j'aime être avec mon chum seul. Pour moi, c'est extrêmement important de protéger ça. Mon chum, je l'expose dans le sens où j'en parle, mais tu sais, il a pas choisi de faire ça dans la vie. Il a pas choisi d'avoir la lumière que moi j'ai de par mon métier, cette attention-là. Fait que je trouve que c'est un gars super réservé à son affaire. Il travaille dans un milieu super rigoureux. Je trouve que c'est respecter un peu aussi sa vie, de la protéger, cette intimité-là. Et je trouve ça super. Je trouve ça super de mettre ce côté privé-là, puis de le protéger, puis d'arriver chez nous, puis d'avoir l'impression vraiment que c'est un espace qui m'appartient, qui nous appartient. Puis je pense que mon chum, c'est ce qui m'apporte de plus précieux. Étrangement, c'est une sécurité de savoir que on est chez nous, on est ensemble, puis ça nous appartient. Puis on partage pas ça.
C'est ta famille.
C'est ma famille. Puis c'est pas parfait, là. Tu sais, il y a pas un couple de parfait. Il y a rien de parfait nulle part.
Il paraît que c'est plate. Moi, j'ai pas connu la perfection dans ma vie, mais il paraît que c'est bien plate.
Non, c'est plate. Puis tu sais, les deux, mon chum puis moi, les deux, on est quand même... mon chum, il aime beaucoup lire des livres de croissance personnelle, de psychopop, puis des réflexions, puis tout ça. Fait que les deux, on aime ça, cette affaire-là, de se jaser, d'évoluer, d'apprendre sur nous, de se remettre en question. Fait que je trouve que c'est vraiment riche.
Est-ce que vous voulez être papa?
Marc-Claude.
Me semble. Parce que je t'écoute depuis tantôt, puis il y a quelque chose de la famille avec un grand F.
Ouais. C'est mon plus grand rêve. C'est mon plus grand souhait. Je dis tout le temps que j'ai pas reçu... Tu sais, ce que j'essaie de garder de ma mère, admettons, puis de redonner, je me dis toujours, j'ai pas reçu autant. Puis j'ai pas autant de respect pour ma mère, puis autant d'admiration pour ce qu'elle a fait dans... sa vie à la hauteur de ses capacités, de ses défis, pour pas essayer de faire perdurer ça, puis de redonner moi aussi, dans une certaine mesure.
Est-ce que c'est quelque chose que tu fais des démarches? Est-ce que c'est concret dans ta vie?
C'est très concret. J'ai les deux pieds dedans en ce moment. C'est pas abouti encore. C'est quand même difficile. C'est des processus qui sont limités aussi pour un couple homoparental de gars, principalement.
Ouais, mais c'est différent, c'est ça.
C'est très différent. Puis d'ailleurs, ça, c'est une affaire qui me donne le goût de monter aux barricades.
C'est quoi ta plus grande barrière présentement?
Mon anatomie.
Mais dans le système.
Ah, c'est tout. C'est peu importe l'avenue qu'on prend, c'est des étapes, c'est de la bureaucratie, c'est complexe, c'est pas fait pour accueillir ce type de projet-là. Il y a trois façons pour avoir un enfant au Québec reconnu. Il y a les enfants de la banque mixte. Est la DPJ. Dans le fond, c'est un programme lié à la DPJ, des enfants qui sont... dans des récidives de placement dans des familles d'accueil. À un moment donné, on décide pour le bien de l'enfant de faire « OK, là, on va te placer dans une famille à long terme qui éventuellement va déboucher peut-être
sur une adoption.
Mais on sait que ce programme-là, c'est pas fait pour un programme d'adoption. C'est fait pour donner le temps aux parents biologiques de se remettre sur pied.
Ouais.
Pour éventuellement ramener l'enfant dans sa famille, mais souvent, ça ne fonctionne pas, fait que l'enfant est placé en adoption dans sa famille d'accueil. Sinon, il y a l'adoption à l'étranger, mais il y a seulement deux pays qui l'autorisent.
Pour les couples gays.
Autrement, il faut mentir. C'est une espèce de gossage qui ne se peut pas.
Au niveau législatif, c'est difficile.
Puis sinon, c'est par femme porteuse, qui est un modèle qui n'est pas encore... qui est qui est légalisé depuis peu au Québec, mais qui n'est pas encore... La chaîne n'est pas graissée, là. Tu sais, il y a du chemin à faire encore énormément.
L'Ontario est beaucoup plus avancé.
L'Ontario est avancé. Puis c'est pas juste pour l'accessibilité aux familles homoparentales d'avoir recours à une femme porteuse. C'est aussi pour protéger, encadrer, puis faire en sorte que les femmes porteuses qui souhaitent le faire, qui souhaitent offrir ce cadeau-là inestimable à une famille, puissent le faire dans des barèmes respectueux, protégés, puis légaux. Fait que moi, je souhaite que ça devienne... un modèle d'accessibilité à la parentalité qui soit positif et valorisé et protégé et célébré.
Moi, j'ai tellement aimé être enceinte que des fois, je me disais, moi, j'aurais pu être une mère porteuse. C'est compliqué pour partager ça avec, justement, un couple comme ton chum et toi qui, biologiquement, c'est pas possible.
Puis je comprends que ça soit pas fait pour tout le monde, puis je comprends que gens comprennent pas, tu sais, que c'est un investissement, puis c'est physique, puis... Mais... Pour être à l'affût de ces démarches-là, il y a des femmes qui ont envie de le faire.
Oui.
Il y a des femmes qui le font pas pour l'argent. Il y a des femmes qui le font parce qu'ils ont eu 2 enfants, 3 enfants, puis qui veulent plus d'enfants, puis qui ont le désir de redonner ça à quelqu'un, qui ont le désir d'être enceinte, qui aiment être enceinte, mais qui n'ont pas envie d'avoir un autre enfant.
Oui.
Je me dis juste, tu sais, pourquoi ne pas encadrer ça de façon... où tout le monde est respecté et célébré là-dedans, pour que chaque adulte dans ce processus-là puisse arriver à accomplir son rêve.
Donc, vous êtes là-dedans, là. Savoir comment avoir un enfant.
Ouais.
C'est comment arriver dans tout ce processus-là, qu'est-ce qui va vous convenir, qu'est-ce qui est possible. Et d'être dans ce processus-là, j'imagine que déjà ça, malgré les embûches, il y a quelque chose qui doit t'apporter de la joie, de t'approcher de ce rêve-là.
Oui, parce que c'est quand même concret, malgré le fait que c'est très volatile comme processus, très, je sais pas, c'est pas tangible, tu sais, c'est pas, tu sais, je reviens pas à la maison, ma blonde ovule, on fait l'amour pendant cette semaine-là, puis à un moment donné, on se croise les doigts, là. C'est voulu, là, tu sais. Pour embarquer dans ces démarches-là, quelles qu'elles soient, c'est réfléchi, c'est voulu. Ça fait longtemps déjà qu'on est là-dedans. Fait que... Ouais, puis tu sais, j'ai envie d'en parler maintenant. Avant, j'avais peur d'en parler, de peur d'être jugé, de peur de pas... Mais maintenant, j'ai envie d'en parler, non seulement parce que j'ai le goût que ça se fasse, mais j'ai envie que ça se fasse plus facilement, puis plus légalement. On a des discussions à avoir. Faut arrêter de faire semblant que qu'on peut pas le faire dans un beau cadre.
Oui, bien, pas bien besoin fait, d'être de se cacher ou de toujours être dans une espèce de zone grise. Moi, j'ai fait mes premiers reportages, mes premières entrevues sur la parentalité de 2 hommes, là. Parce que 2 femmes, il y a une différence.
Femmes, c'est assez simple dans le sens
c'est
où. D'abord, moi, il y a un discours féministe, puis peut-être que je vais soulever des passions, là, mais il y a quelque chose de vraiment féministe dans le discours du droit à porter pour autrui.
Ouais.
Un gars versus une fille. Un gars va pouvoir donner du sperme, vendre du sperme facilement dans n'importe quelle banque. Puis une femme peut acheter ce sperme-là, puis s'inséminer, puis avoir un enfant. Une femme qui désire utiliser son corps pour l'offrir à un couple temporairement pour offrir un bébé, peut pas légalement être rémunérée pour ces services-là. Il y a quand même quelque chose d'antiféministe là-dedans, où une femme ne peut pas décider d'utiliser son corps, de faire ce qu'elle veut avec pour quelque chose, tu sais. Fait que je trouve que ça aussi, c'est très, très discutable, c'est... Je trouve ça, je trouve ça injuste parce que ultimement, on le sait que ça existe. On le sait que ça se fait quand même. Ouais. On le sait qu'il y a des femmes qui sont payées au noir pour... Puis pas au noir parce que c'est des femmes dans le besoin puis qui sont dans la drogue.
Non, mais c'est parce que c'est la seule façon de le faire.
C'est juste toi, tu pourrais dire, parfait, je vais le faire, je vais le porter ton enfant. Puis moi, je décide qu'on te paye en dessous de la table. Parce que ça vaut quelque chose. Je suis pas en train de dire la mère porteuse ne doit pas être rémunérée. Au contraire, c'est un service rendu, c'est incroyable. Il faut que le désir de base ne soit pas pécunier. C'est quand même prenant, puis c'est incroyable comme cadeau. mais ça vaut quelque chose.
Il y a une reconnaissance. T'sais.
Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de faire ça? Comment ça se fait que c'est illégal?
Parce que tu sais, tu me dis ça en 2024, puis je me souviens avec Kevin Skyle que j'avais eu cette discussion-là parce que, bon, lui et son conjoint ont eu des enfants, mais si je me trompe pas, on devait être en 2010.
Ouais.
Et on parlait exactement des mêmes embûches.
Ouais.
Et là, on est en 2024. Et il y en a beaucoup qui en ont parlé. Tu sais, il y a une lenteur. Et c'est dommage parce que, tu sais, on veut repeupler. On nous dit d'avoir des enfants. Tu sais, la moyenne d'enfants par couple descend. Bien, il y a des gens qui en veulent des enfants.
Ouais.
Et ça, on n'arrête pas de dire le Québec est riche de ses enfants. Tu sais, c'était sorti dans un rapport il y a plusieurs années. Puis on est resté avec cette phrase-là. Mais permettons-nous d'avoir aussi des enfants.
Puis d'avoir la discussion. Tu sais, permettons-nous au moins d'asseoir des gens autour d'une table qui sont concernés par cette réalité-là. Que ce soit des familles homoparentales, que ce soit des femmes qui ont envie de faire ça, que ce soit aussi des hommes qui partagent la vie de ces femmes-là, qui ont envie de donner, puis qui font... Moi, j'en ai entendu des filles dire « Mon chum est en arrière de moi. Il est content pour moi, il a envie. » Qu'on fasse ce projet-là.
Parce que là, ça se vit en famille aussi.
Absolument.
Tu sais, je veux dire, la mère porteuse, elle a une grossesse.
Exactement.
Là, elle a une grossesse standard.
Exactement.
Il n'y a pas deux types de grossesse.
Ouais.
Là.
Ouais.
C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, maintenant, tu décides de porter un flambeau, de dire, moi, je vais... Tu fais bien. C'est parce que ton besoin est puissant.
M'en battre, Marie. Tu le sais. Moi, quand j'ai... Ma mère me disait tout le temps, Félix, quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas dans le cul. Excuse-moi, mais c'est tellement vrai.
Mais c'est parce que tu as des convictions.
Ouais. Puis, tu sais, ça prend du temps des fois avant de, aux convictions à prendre leur place ou à, puis de tasser le côté que il y a un moment où je me disais, je veux pas devenir le porte-étendard de ça.
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas?
T'es rendu là.
C'est à ça que ça sert notre métier aussi. Je veux dire, on parle, on a accès
moi,
à
là,
du monde. On...
C'est tout le temps ça que je me suis dit, Félix-Antoine. Je me suis toujours dit, être reconnu dans la rue, là, puis prendre un selfie avec quelqu'un, c'est agréable, là. C'est bon pour l'ego, la personne est contente, mais honnête, qu'est-ce que ça donne?
Mm-hmm.
Mais quand on se sert de notre notoriété pour faire avancer une cause, là, je trouve que ça prend
tout,
son sens, qui déborde de notre ego, mais qui se projette dans nos... Tu sais, tant que nos conditions sont là,
ouais.
nos convictions, tant que tout est là, je trouve que là, ça a un sens. Parce
ouais.
que toi, tu sais, ta génération te connaît. Ça fait des années, ils ont confiance en toi. T'es articulé, tu vis la situation. Donc, tu prends pas la... Tu sais, moi, je défends les jeunes sans-abri entre 12 et 35 ans. Les auberges du cœur, je n'ai jamais été ça. Mais quand je vois ces jeunes-là, je me souviens quand j'ai commencé à m'impliquer, mes enfants avaient... Tu sais, moi, j'ai pas encore d'enfants qui ont 35 ans. Je me dis, ça peut... Quand j'écoutais les histoires, j'ai dit, OK, mais ça peut arriver à n'importe quel enfant.
Ouais.
Au-delà du type de parent, je me disais, il y a quelque chose qu'il faut protéger nos jeunes. Et j'ai énormément, ça fait des années que je suis avec eux, puis quand je les rencontre, à chaque fois, je suis chamboulée de voir aussi ce que les intervenants font. Mais ça prend des gens, tu sais, pour ramasser, moi, c'est pour ramasser des sous, pour arriver à des événements où ma notoriété peut attirer des gens. Bien, je me dis, ça sert à ça. Hey, ça va être utile au moins, tu comprends? Sinon, quand je suis seule chez nous, la notoriété, là... Il n'y en a pas chez nous, là, ça n'existe pas. C'est du vent, c'est du vide, ça, être connu. Ça a un sens quand on y appose, je trouve, une cause.
Ouais.
Et toi, tu as tout, là. Tu as un désir profond d'avoir un enfant.
Ouais.
Tu as des embûches qui sont réelles, qui sont discutables, et tu sais que tu peux, que c'est faisable de les repousser.
Oui. Puis je vais faire ce qu'il faut.
Go. C'est le fun, non, mais... Tu sais que ça apporte de la fierté de faire ça.
Ben, en fait, ça me... En ce moment, ça me tient en vie.
Oh!
Ça me tient en vie d'avoir des buts, des projets, des affaires à défendre. J'aime ça. Ça me donne de l'énergie, puis ça me... Je sais pas, ça m'allume énormément.
Oui, puis tu le vois dans le regard des autres aussi.
Tu sais.
T'sais, dans ceux, justement, qui n'ont pas ta chance d'être entendus sur la place publique, mais qui auraient tellement envie d'être à ta place, puis de dire, hey, moi, là, t'sais... Alors là, tu le vis, tu le fais, puis ça apporte.
Brasser les affaires.
Prendre la parole, ça apporte toujours quelque chose quand on a les convictions, puis on le fait pas stratégiquement, mais on le fait avec le cœur. Après ça, on peut être stratégique dans comment on va déployer ça. Mais, hey, go, je trouve ça beau. J'aime ça. Moi, j'aime. Ouais, j'aime quand les gens défendent une cause.
Ouais. Quand... Merci, Marie.
Go. Alors, tant pis, June, si ça te tente de continuer, c'est la dernière.
La ultima!
La ultima, c'est hypothétique, cette question-là.
Ouais, j'ai le goût de prendre mon temps pour celle-là, je sais pas pourquoi.
Faut que tu la sentes, c'est ça que je comprends. Et là là. Si tu avais à partager un repas avec une personne décédée, ce serait avec qui?
Pas.
On dirait qu'elle est avec nous.
Oui.
Je sais pas, c'est peut-être pas cette personne-là, mais on dirait que...
Oui. C'est ma mère. C'est sûr, c'est ma mère.
Elle s'appelait comment, ta mère? Elle
Dominique.
S'appelait... Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Dominique?
Oh, mon Dieu. C'est drôle parce que... J'ai l'impression qu'elle est au courant de tout. Fait que si je l'avais avec moi à souper, j'ai comme l'impression qu'elle sait déjà tout.
Fait que c'est toi, faudrait qu'elle fasse parler.
Peut-être plus.
Qu'est-ce que tu lui demanderais?
Probablement que j'y demanderais... si tu corriges ce que je fais. C'est ça qui me manque. D'avoir son approbation, sa validation. Qu'elle soit fière de moi. Ma mère, c'était ma fan numéro un. Là, c'est indéniable. Je pense que je m'assoirais avec. Ma mère adorait les frites sauce. Fait que probablement que j'y ferais un esti de gros frites sauce maison. Puis un 7-Up diet. Puis je jouerais aux cartes avec. Puis on niaiserait, puis on jaserait. Puis je dirais que... Je pense que j'y ferais l'éloge de ce qu'elle a été pour moi, puis de ce qu'elle est. Puis quelque part, je le fais à tous les jours. Je pense. J'essaie d'y faire honneur. J'essaie d'appliquer ce qu'elle m'a enseigné sans même savoir qu'elle m'a enseigné quelque chose. C'est moi qui, avec le temps, avec son départ, qui a réalisé les enseignements qu'elle m'a transmis, tu sais, puis les valeurs qu'elle m'a transmises.
Mais c'est un peu comme on reconnaît des fois la valeur d'un artiste une fois qu'il est décédé parce que la production est terminée.
Ouais.
Donc, tout prend de la valeur parce qu'il n'y aura rien d'autre.
Ouais.
Et c'est un peu ça avec nos parents ou nos proches qui décèdent.
Ouais.
C'est qu'il n'y aura rien d'autre. Donc, ce qu'ils ont dit devient précieux.
Ouais.
Parce que c'est terminé. Quel conseil elle t'a donné ou quelle phrase qu'elle t'a dite qui t'est restée?
Fonce.
On dirait qu'on tire au tarot aujourd'hui, je trouve. Il y a quelque chose dans fonce par rapport à ta cause que tu défends. C'est un peu ça, fonce. Ouais.
Puis c'est drôle parce que ma mère était quand même réservée. Ma mère avait pas le courage d'aller défoncer les portes qu'elle aurait dû ou qu'elle aurait pu défoncer. Mais elle m'a toujours dit, fais pas comme moi, fonce. Va demander de l'aide quand t'en as besoin. Va vers les gens. Si t'as besoin de job, va demander de la job. Si t'as besoin d'argent, va demander de l'argent. Fait que, tu sais.
Puis elle le faisait pas pour elle?
Non.
Fait qu'elle voulait te protéger de ce que peut-être elle trouvait difficile.
Ouais. Puis regarde-moi aujourd'hui comment je t'ai fronté, puis comment... Tu sais, je vais chercher ce que j'ai besoin, puis si je l'ai pas, je fais des téléphones, puis j'essaie d'aller chercher ce que j'ai besoin, puis de l'avoir. Puis de façon matérielle, de façon émotive aussi. Est-ce
que c'est effronté ou
déterminé? Un heureux mélange.
Ah oui, tu vois quelque chose d'effronté là-dedans?
Je pense que oui. C'est pas de mauvaise chose d'être effronté.
Non, non. Mais tu te déplaces. Tu déplaces quelque chose.
Oui. Oui. Je pense que, tu sais, avec tout pouvoir puis toute grande force, ça peut se transformer en quelque chose de négatif, mais ça peut être super positif aussi. Fait que, tu sais, pour moi, être effronté, c'est une force.
Être effronté, c'est de pas avoir peur du non aussi.
Oui. Mais j'ai peur du non, Marie. Tu sais, je t'ai effronté, mais j'ai peur du non. C'est juste que non, c'est pas une réponse. Je sais que ça existe.
C'est là que ça commence.
Mais j'accepterai pas un nom.
Est-ce que tu as l'impression que ça commence quand il y a un nom ou il y a un pourquoi?
Sûrement. Mais au moment où il y a un nom, il y a un. J'ai ça me faire dire non. Puis là, il y a un. Ça vaut-tu vraiment la peine de se battre? Y a-tu vraiment quelque chose? Puis des fois, je fais comme. Non, vraiment, ça marche pas. Faut que j'aille au bout de mon affaire. Tête de cochon?
J'adore, j'aime ça. Je trouve qu'on a trop peur de dépasser cette barrière-là. Je pensais que tu allais me dire que toi, après le nom, tu t'arrêtais. Et toi, un nom, il y a une virgule après. C'est pas un point.
Non, non, il y a un détour. Zip. Non, parfait. Tap, 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 tap. On va passer par là.
J'arrive
à voir. Ouais. Tu sais, ça revient à ce que je te disais avec mon chum des fois que les affaires, j'ai besoin de les comprendre. Puis ça se peut que j'ai besoin d'avoir la discussion sur la même affaire 5 fois. Puis que j'ai besoin d'entendre les choses différemment.
Mais tu vas le faire. Effronter, c'est une qualité. J'aime ça entendre ça.
Je le verbalise puis je le comprends en même temps que je te le dis. Moi aussi.
J'aime ça, entendre ça. Foncer, prendre la place. Quand c'est habité par quelque chose de vrai.
Ouais.
Et pas pour dire... C'est que tu te poses pas la
question... Pas pour provoquer.
C'est ça, pas pour provoquer. Parce que, tu sais, t'as ceux... je trouve les vrais rebelles qui te dérangent juste dans ce qu'ils sont. Puis t'as les faux rebelles qui font tout pour déranger.
Ouais.
Tu sais, j'aime ça quand c'est naturel.
Ouais.
Tu portes de quoi, tu y crois, go, j'y vais jusqu'au bout.
Ouais, ma mère était rebelle, puis je porte ça. J'amène ça à un autre niveau.
Oui, rebelle. Est-ce que tu as une question pour moi de ton choix? Parce que tu as accepté de répondre à la question mauve. Ça peut être n'importe quoi.
Ah, ben regarde. Ouais, je vais te poser une question, moi. Par rapport à ce qu'on a discuté.
Ouais.
Comment tu te sens en tant que mère?
Ouais.
D'être assise avec moi. Puis de t'imaginer de plus être là un jour pour tes enfants.
Eh hey boy! Mais tu sais que je viens d'apprendre que je vais être grand-mère.
Félicitations! Voyons comme tu sais que je pose une grande question lourde puis il y a une super bonne nouvelle
demain. Non, mais je veux dire, ça change quand même. Je viens d'apprendre ça. Je serai grand-maman, si tout va bien, au mois de juillet.
Ah, félicitations!
Fait que je vais être mamie. Moi, j'ai décidé que ça allait être mamie. Puis là, mamie est...
Mamie Marie, ben oui, hey, on j'espère. Dirait
que j'ai comme changé d'angle. Là, c'est comme... faut que je me gère.
Ouais.
Parce que tu comprends qu'il y aurait déjà une nouvelle chambre dans la maison après 2 jours et quart. Même, j'aurais tout commandé en ligne. Tu comprends?
Ouais.
Puis ma fille, elle le sait, puis elle est bien contente de ça.
Ah, c'est
elle n'est pas en train de me freiner. C'est comme pas dit, maman, go, go, go. Mais on dirait que ça me rassure. On dirait que c'est drôle que tu me poses la question, parce que moi aussi, j'ai réfléchi pendant que je te le dis. Je me dis, déjà, s'il y a une autre génération, il y a quelque chose de naturel d'être la génération qui va quitter.
Ouais.
Fait que moi, ça met un baume. Parce qu'il y aura autre chose. Parce que je pense que... Je pense que si mes enfants n'avaient pas d'enfants, puis il y aurait quelque chose qui s'éteint. Je sais pas, je sais qu'il y en a là, qui vivent ça. Je suis pas en train de juger, mais juste personnellement, ce que ça m'a fait d'être mamie, je pense que déjà, ça apaise cet aspect-là.
Ça te sécurise de laisser tes kids
seuls. Ouais, parce qu'ils vont devenir parents. Ils vont devenir, je sais pas si les deux autres vont devenir parents, mais la réaction qu'ils ont eue quand ils ont appris qu'Angela, elle a 27 ans, c'est la plus vieille. Écoute, tout le monde pleurait. Là, tu savais plus si c'était une mauvaise ou une bonne nouvelle, si tu savais pas de quoi on parlait.
Ouais.
Mais c'était l'espèce de venue de cette petite affaire-là. Puis on n'arrête pas de dire, ouais, mais là, les vacances, on pourra pas. Là, on pourra plus faire ça. Écoute, on l'a intégré, puis on dit, on va se calmer, parce que c'est récent, mais en même temps, pourquoi se calmer?
C'est drôle, ça t'a-tu donné... Tu sais, l'annonce de ça, ça t'a-tu donné comme une validation que... Ma job est faite.
Oui. Oui, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis que ma fille et son chum disaient, nous autres, on va vouloir que tu t'en occupes. Tu sais, c'est comme le choc.
La confiance.
Ah oui, la confiance.
Et puis tu vas être bien catiné, puis coller un bébé sans avoir à te stresser avec les nuits. Puis c'est pas toi qui vas pas dormir. Toi, tu vas juste avoir le plus beau, le plus fun.
Non, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est comme une autre étape de vie.
Oui.
Puis c'est ça, je trouve, c'est comme céder sa place, puis tu dis de... Parce que, bon, on le sait qu'on n'est pas éternel, là, tu sais, c'est pas une surprise, mais de dire, regarde, il y a d'autres choses.
Ouais.
Et ça vient mettre une boucle sur quelque chose.
Ah, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est un beau cadeau.
Ça va être une belle mamie.
Oh mon Dieu, écoute.
T'es en forme, t'es brillante, t'es drôle.
C'est fun d'être une mamie, tu sais, assez jeune, tu sais, ouais. De dire, hey, on va l'amener partout. Puis là, je me disais, en vacances, on pourrait louer une grosse maison. Puis là, c'est comme, là, moi, je suis partie dans ma tête. Là.
Ben oui, je comprends. Puis tu fais bien.
Ah, moi,
ça
j'aime
coûte
ça.
Rien rêver, on peut
ben
dessus.
Non, puis au pire, ça marche pas, mais j'y aurais cru.
Oui.
Moi, j'aime ça croire aux affaires. Moi ça aussi. Marche pas. Le temps que j'y ai cru, là. Ça m'a habité, ça m'a gonflé, ça m'a fait du bien. Puis garde, c'est pas grave, ça a pas marché.
Ouais.
Moi, je fais plein de projets, là, je propose. Est-ce que ça vous tente? J'ai tout le temps été comme ça. Mais là, je pense, quand j'ai vu les deux autres, Angela, Juliette et Charles réagir, j'ai dit, OK, on est toutes pareilles, là. Là, on se peut plus, là, tu sais. Puis là, on protège Angela. Puis tu sais, c'est comme,
ouais.
Moi, je l'appelle tous les jours. Puis là, ça m'a amené une nouvelle inquiétude, par exemple.
Ouais.
Là, je suis, OK, la maman inquiète que je suis tout le temps... Là, c'est « OK, t'es-tu correct? Il neige, t'es-tu sûr que tu devrais prendre la route? » Parce que ouais. Là, t'es enceinte. « Là, maman, je suis enceinte, là, c'est beau, là.
Ouais, » Je suis pas paraplégique, là. Je suis correct, je peux me gérer, là.
Mais tu sais, puis j'étais pareil avec ma mère. J'avais calme, tu sais, je disais à ma mère, « Calme-toi, là. » Mais là, je me dis, j'étais encore pire.
Ouais.
Et là, hier soir, je l'avais pas appelé. Je l'ai pas appelé. Elle va-tu? Elle m'a pas texté. Parce que nous autres, on écoute la télé, là, puis mettons Big Brother, puis on commente en temps ouais. réel. On est toujours en train de commenter, puis elle a rien commenté. Là, ben non, finalement, c'est tout allait très, très
hey,
bien.
T'imagines-tu là? Comment, à Noël prochain, ça va donner un beau... je sais pas, j'imagine ça, puis ça donne un vent de fraîcheur à une famille, puis ça dynamise l'affaire.
C'est un cycle, un ouais. nouveau cycle. Il y a quelque chose... Tu sais, moi, j'habillais toujours mes enfants dans le temps le premier Noël, mettons, en mère Noël ou en père Noël.
J'adore!
Il y avait tout un costume. Là, je me dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait avec ces costumes-là?
Faut que tu les trouves pour
faut
tes
que
je les trouve.
Ah, non, et là, ça nous prend une mère ou un père Noël
là,
à Noël. Là, fait que tu comprends. Fait que c'est extraordinaire. J'aime ça, cette question-là, parce qu'on dirait qu'en te répondant, je réalise à quel point ça allège cette crainte-là que j'avais.
Ouais.
C'est comme pas dissous complètement, mais je me dis, oh non, y a de ils vont se créer. Il y a une autre génération.
Tellement du beau qui s'en vient. Félicitations, Angela.
Ah, tellement c'est contente. Beau. Puis elle voulait un enfant, Puis tu vois, Angela, on est très, très proches, là.
Oui.
Puis elle voulait avoir un enfant à mon âge parce qu'elle trouvait qu'elle avait une mère d'un âge le fort.
Oui.
Fait que j'avais 27 ans, elle a 27 ans.
Ah, wow.
Mario avait 26 ans, son chum a 26 ans. Je suis OK.
Hey, c'est bon.
C'est arrivé comme ça.
Extraordinaire.
Alors que ma plus jeune a toujours trouvé que j'étais trop vieille.
Ah, franchement. Elle a quel âge?
Elle a 21 ans. Ils ont 6 ans de différence. Puis à l'école, t'as là, maman, tu sais, moi, c'est parce que t'es vraiment plus vieille que les autres. J'étais là, mais pas tant que ça. Moi, mais Angela, elle va t'avoir connue 6 ans de plus que moi si tu meurs. J'étais là, mais là, c'est pas de ma faute, Juliette.
21, c'est ça, tu l'as eu à 36?
Je l'ai eu à 34. Moi, j'ai 34. 54, là, okay. Tu sais. Fait que, moi, attends, j'ai quel âge? Ouais. C'est sûr, je vais avoir 55 dans ouais. quelques jours. Fait que ça a de l'allure. Mais, wow. Mais elle, là, Juliette, c'est. Comment on va rattraper ça, ces 6 ans-là qu'elle t'a connu, puis moi, j'étais pas là?
Ah, je comprends.
Là, t'es comme, hey boy, c'est des questions existentielles. Puis ouais. tu sais, Juliette, elle était là. Bon. Angela a eu un petit frère qui s'appelle Charles. Charles, il a eu une petite sœur qui s'appelle Juliette. Comment s'appelle le petit frère de Juliette? Mais j'étais là, il n'y en aura pas. Mais oui, je te le répète. Là, à tous les matins, là, j'étais, ben, il n'y en aura plus d'enfants. Ah, t'es OK. Fait que moi, j'aurais jamais de petit frère, moi. Fait qu'elle, elle s'est déjà sentie, tu comprends?
Hey, c'est drôle.
Elle, toute la vie était déjà injuste quand ouais. elle avait 4 ans. Elle avait une mère âgée pour ouais. elle.
Puis elle n'aurait jamais de petit frère ou de
petite
sœur.
Moi, j'avais mis fin au cycle après elle. Fait que des fois, on s'en parle puis on rit encore de ça. Mais tu sais, elle me dit toujours, mais c'est vrai que ce 6 ans-là, je le connaîtrai pas.
Mais elle a dû fendre en deux avec l'annonce du bébé d'Angela. C'est comme son petit frère ou sa petite sœur qu'elle n'aura jamais eu.
Elle va enfin catiner ce qu'elle voulait faire. Fait garde. Puis Angela, je pense qu'elle va être... très... nous autres, on est un clan, ouais. là, tu sais, fait que je pense que ça va embarquer dans le clan, puis, tu sais, puis moi, j'ai toujours... Mario et moi, on a toujours enseigné aux enfants, quand on s'appelle, il faut répondre oui.
Ouais.
Il n'y a pas de... entre nous, là, c'est toujours oui.
Ouais.
Puis c'est resté ça.
Ouais,
moi, je suis comme ça avec mon frère, on s'appelle, là, on n'a pas besoin de se raconter le ton, là, on le sait. Puis ça, c'est une force de la fratrie.
Ouais.
Quand t'as la chance d'avoir une fratrie, ben il faut aussi, comme parent, être conscient que ça se crée pas toute seule, nécessairement, des liens dans une fratrie.
Ouais.
Puis il y a des grands bouts que tu doutes parce qu'ils veulent s'entretuer dans l'auto. Puis... Mais il faut cultiver la fratrie. Puis
c'est beau, Marie.
C'est fort, tu sais, la fratrie, mais ça se fait pas toute seule. Moi,
ouais.
je trouve qu'on a mis beaucoup de choses en place. pour dire, tu sais, quand on partait en voyage, j'aimerais dire les premières années, ça, écoute, ils se parleront plus, eux autres, il y en a
ouais,
un
ouais.
Non, avec le temps, ils vieillissent, puis ils apprennent à s'endurer aussi.
Ouais.
Ils apprennent à vivre avec les défauts, puis c'est... t'apprends avec des gens qui sont pas d'accord. Tu sais, c'est les premières confrontations, mais il faut que tu restes amis pareil.
Ouais.
Donc, on sont beaux ensemble. Je trouve ça beau. La question simple pour toujours bien finir.
Ouais.
Que où te vois-tu dans 10 ans?
Ah, oh, mon Dieu. Ouais. Moi, là, je suis vraiment fier de où je suis en ce moment. Puis j'essaie vraiment de cultiver mon rapport au moment présent. Fait que pour moi, cette question-là, ce que j'ai envie de dire, c'est si je souhaite dans 10 ans être au moins autant heureux puis enligné que je le suis en ce moment.
T'es dans une belle période de ta vie.
Je suis dans une belle période de ma vie. C'est pas parfait, c'est pas toujours égal, mais je sens plus que jamais cette année que j'ai des outils, puis je me sens entouré. Puis je me sens fort, puis je me sens capable de n'importe quoi. Je me dis, dans 10 ans, si je pogne une coche encore, je suis le Dalai Lama.
Hey, moi, j'ai hâte de te recevoir dans 10 ans, le Dalai Lama.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens où...
Oui, parce que tu travailles sur toi. Tu...
Puis j'aime ça, puis j'ai juste envie d'être heureux, j'ai juste envie d'être bien. Puis dans 10 ans, je sais que j'ai la mentalité de mettre en place les choses dans ma vie pour que le bonheur suive, puis soit au rendez-vous. Fait que dans 10 ans, je me vois heureux.
Les bouddhistes disent « le bonheur est là où tu es
mm-hmm. ». Moment présent.
C'est ça. Fait que ben, j'ai quand même hâte de rencontrer le Dalai Lama. Je savais pas que j'allais le rencontrer dans ma vie. Alors, on se donne rendez-vous dans 10 ans.
Oui. Même jour, même heure, même poste.
Ça, exactement.
Comme Star Academy. J'adore.
Exactement. Merci beaucoup,
merci.
Félix-Antoine,
oui.
De ta grande générosité, de ton ouverture. Je m'attendais à quelque chose, à une rencontre de ce niveau-là.
Merci.
Merci, ça m'a fait du bien.
Moi aussi, beaucoup.
Alors, j'espère que ça vous a fait du bien aussi, parce que c'est extraordinaire. Alors, si vous êtes membre du Marie Club, vous pouvez commenter ce qu'on vient de vivre. Puis j'aime ça lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Pour les autres, évidemment, c'est disponible. Ce sera toujours gratuit sur toutes les plateformes numériques. Et merci d'être là. Puis tu sais, il y a des gens d'un peu partout qui nous écoutent dans la francophonie.
Oui.
C'est excitant, ça, parce que oui. Le numérique... La télé, on est bloqué aux frontières, mais
ouais,
le numérique...
Ça permet de rejoindre.
C'est sans frontières. Alors moi, je trouve ça extraordinaire de lire des gens... qui commentent, qui vous découvrent, qui nous découvrent, qui découvrent les propos. Donc, le contenu voyage, les expériences de vie voyage. Alors, merci à tous d'avoir été là et au prochain Ouvre ton jeu.
Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.